les amis, merci à tous d'être venus. Je voulais dire individuellement, mais voilà, ça me fait un grand plaisir. C'est merveilleux de voir autant de monde. C'est pour le kavod de mon père qui va bientôt, on va bientôt finir l'année de deuil le 30 octobre si Dieu veut. Et Bezrat Hashem. Et mon frère m'a fait le plaisir de venir à Londres pour donner le shiur à sa mémoire. Donc merci à tous d'être venus. Et voilà, je laisse la parole à Yonkel tout de suite.
Juste pour vous dire un petit quelque chose là, Baruch Hashem, aujourd'hui on est dans une période juste entre Rosh Hashanah et Kippour. La mitzvah que nous avons aujourd'hui, c'est de faire Teshuvah. Alors premièrement, on souhaite à chacun d'entre nous qui est venu un petit peu s'élever et préparer le Yom Kippour, parce que Yom Kippour ça se prépare. Il y a quelqu'un qui croit qu'il peut arriver Yom Kippour, hop, je rentre Yom Kippour, je branche ma batterie, le portable avant de dormir, le lendemain matin, c'est marqué monsieur, pardonnez. Au temps du Beth Amikdash, ça marchait comme ça. Il y avait un signe dans le Beth Amikdash, on pouvait voir, à la fin de Kippour, on voyait qu'il y avait un fil qui était de couleur rouge et qui devenait blanc. Et tout le monde avait une garantie que les péchés étaient pardonnés. Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça, malheureusement. On est loin. On sait que le jour de Kippour, c'est un jour de pardon, mais ça ne marche pas automatique. Il faut venir armé. Alors, un cours comme ce soir, par exemple, c'est une préparation pour Yom Kippour. Et c'est sûr que plus qu'on assiste à ces cours-là, plus qu'on fait les sélichotes, plus qu'on fait une préparation, une réflexion un petit peu avant Yom Kippour, on aura beaucoup plus de chances de mériter le pardon. Bezrat Hashem, après ce cours-là, vous allez voir qu'on est bien bien parti et bien préparé pour le Yom Kippour. Bravo.
Merchut avait mouri à Reni Kaparat Mishkavo. Que les paroles de Torah qu'on va étudier, Bezrat Hashem, tous ensemble, elles soient pour l'élévation de l'âme de notre tzaddik de Père, qui nous a éclairé, qui nous a guidé jusqu'à ce jour précieux, et grâce auquel on est tous réunis aujourd'hui. Vous savez, les tzaddikim, après leur mort, ils sont appelés vivants, parce que grâce à eux, on peut être ensemble. Il y en a, ils sont vivants, mais ils sont morts vivants. Il y en a, ils sont morts, mais au contraire, ils nous font vivre, parce que la Torah, c'est la vie. Et le fait de se retrouver tous ensemble, on vit tous ensemble. Et Bezrat Hashem, avec l'aide du ciel, j'espère que Bechem Hashem Nasev Nasilar, qu'on pourra vivre un moment de lumière tous ensemble, qu'on pourra réveiller notre cœur, s'attacher à l'éternité, s'attacher à Kadosh Baruch Hu, parce que c'est le sentiment le plus beau que quelqu'un peut avoir. Je voudrais, dans un premier temps, remercier du fond du cœur mon frère qui m'a fait le grand honneur de m'inviter parmi vous. Je peux vous assurer que quand j'ai vu chacun d'entre vous, j'ai un amour pour vous, vous n'imaginez pas comment je vous aime, chacun d'entre vous ici. Je sais, vous allez rigoler à chaque fois, je fais des blagues et tout ça au début et tout. C'est pas des blagues, c'est la vérité. Je le sens du plus profond de moi-même. Je vous dis à chacun d'entre vous, j'ai un amour profond pour vous tous. Et de vous avoir vu comme ça vous déplacer pour nous, pour honorer la Torah, pour honorer la mémoire de notre Père, ça nous touche profondément. Et Baruch Hashem, vous savez, à l'époque, mon frère, c'était mon directeur de campagne, parce qu'avant, j'étais président européen dans les associations de jeunesse et tout ça. J'étais au BBOYO, j'étais un homme connu. C'est vrai. Il y en a un, notre ami Ben Sid, il peut témoigner, il est venu pour témoigner, parce que je voulais toujours avoir un témoin à côté de moi. Donc mon frère, c'était mon directeur de campagne et tout ça. Baruch Hashem, je vois qu'aujourd'hui, c'est mon directeur de campagne pour la Torah Akdosha. Et notre père, il nous a laissé cet héritage. Moi, vous savez, j'étudie la Torah à Bnei Brak. Toute la journée, j'essaye aussi parfois la nuit et tout ça de faire des sessions dans la limite de mes possibilités avec ma femme qui me permet qu'elle ait la longue vie et une longue descendance Bezrat Hashem. Parce qu'elle m'a laissé venir être avec vous et vous serrer dans les bras ce soir, Baruch Hashem. Donc je vous dis, j'étudie la Torah, Baruch Hashem, beaucoup. Mais mon père, il m'a dit, n'oublie jamais tes frères. Va toujours à leur côté. Sors pour diffuser la lumière de la Torah. Et aujourd'hui, le fait de venir ici à Londres, c'est le plus bel hommage qu'on puisse lui faire, parce qu'il voulait du fond du cœur, c'était son sentiment le plus fort, c'est qu'on puisse rapprocher nos frères et nos sœurs de la Torah Akdosha. Et c'est ce qu'on essaie de venir faire ce soir. Moi, je circule un peu dans le monde, je vais partout à la rencontre de mes frères. Vous devez vous demander pourquoi, qu'est-ce qui m'amène ici. Vous savez, je ne prends aucun rouble. Moi, je n'ai pas de rémunération. Les rémunérations, c'est voir vos sourires, de voir votre joie et la lumière sur vos visages. C'est le plus beau salaire que j'ai. Et ce que je voulais vous dire, pourquoi je tourne comme ça, je tourne pour la simple et bonne raison que quand on a découvert le plus beau trésor qui peut sauver la vie de ses frères, on a l'obligation de le faire partager à ceux qu'on aime. Et moi, j'aime mes frères du clan Israël et je veux leur faire partager la lumière que j'ai découvert. Parce que si jamais j'avais découvert quelque chose et que je ne le partageais pas avec les miens, eh bien, ça s'appelle que je ne m'appelle pas un homme. On s'appelle un homme à partir du moment où on transmet à ses frères. Adam, la Hamol, Yulad, non, mais venu dans ce monde pour peiner. Le Marsha nous dit, qu'est-ce que ça veut dire peiner? La Hamol, l'ilmod, al-menat, l'amed. les premières lettres de la amol, ceux qui savent parler l'hébreu ils me comprennent, les autres je leur fais un dessin quand on finit le schéma comme les professeurs de l'université et tout ça, j'étais là-bas moi aussi, alors je connais les dessins et tout, le schéma. Adam la amol ou l'Adam, il est venu pour peiner, c'est quoi? L'ilmod al-menat l'emad, il est venu pour étudier afin de transmettre à ses frères. Chaque fois que vous recevez un enseignement, il faut le véhiculer à vos frères. Vous connaissez pas grand chose, dites-le, parce que grâce à ça, ça peut sauver des vies, ça peut sauver des personnes. Mon Rabbi Rabotai, avant de commencer ce shiur qui s'intitule la teshuva chez les mains, la teshuva entière, quelle est la différence entre la teshuva chez les mains et la teshuva qui n'est pas chez les mains, la teshuva entière et la teshuva qui n'est pas entière? Vous allez me dire c'est le mot entier, ça c'est vrai, mais quelle est la différence? On va parler de ça dans quelques instants, mais avant que vous compreniez pourquoi il faut faire teshuva, il faut d'abord comprendre en un premier temps pourquoi nous sommes dans ce monde. Pourquoi nous sommes dans ce monde? Un machal nous est apporté par le Zohar Kadosh. C'était un petit machal, ça aussi. C'est un machal, ça veut dire une allégorie. Toujours quand il y a une allégorie, il faut une petite musique pour mettre en ambiance. Alors j'espère que je ne vais pas dire trop de machal, comme ça il n'y aura pas trop de musique, sinon vous allez commencer à danser un peu et tout ça. On ne sait jamais. Mais vous allez danser de joie, Bezrat Hashem, quand vous allez entendre ça. En tout cas, moi, quand j'ai entendu ça, j'ai voulu me rouler par terre tellement j'étais heureux. La bouteille, on va essayer d'être sérieux quelques instants, après on rigolera. De toute façon, on a toute la nuit. Moi, je suis là que pour 24 heures, donc il faut rentabiliser chaque seconde. Ceux qui veulent, on a un abri pas très loin d'ici. Alors écoutez, le machal nous explique dans le Zohar HaKadosh quelque chose d'extraordinaire. Il nous explique pourquoi l'homme est venu dans ce monde. L'homme est venu dans ce monde, on nous amène une allégorie. Qu'est-ce que c'est cette allégorie? On nous raconte l'histoire d'un homme, c'était un roi, il était très puissant, il était très miséricordieux. Il est sorti pour aller auprès de ses frères, les soutenir. Et il a voulu adopter un homme qui était un mendiant, un indigent, un clochard. Il s'est dit, il faut absolument que je sauve une personne et que je l'adopte avec moi. Alors il va à sa rencontre, il lui dit, hé, toi mon ami. Il dit, oui mon roi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il lui dit, tu as des parents, tu as de la famille? Il dit, non, j'étais abandonné. Il dit, ça te ferait plaisir d'être mon fils? Alors lui, il s'est dit, sûrement anguille sous roche, comme on dit. Il s'est dit, c'est pas possible qu'il y a quelque chose et tout ça. Il dit, dites-moi les conditions et moi j'accepte avec plaisir, ça a l'air d'être bien. Il m'a dit, je t'accepte en tant que fils à une seule condition. Alors lui, il s'attendait à la condition draconienne, qu'il va devoir faire des pompes, des abdos, des genuflexions et tout ça, des trucs spéciaux et tout ça, des tours de terrain. Comment il s'appelle le stade encore, on a dit? Wembley. La prochaine fois qu'on fait le chiot, on sera Wembley à Bouteille. Parce que là, j'ai vu qu'il y avait, je connais, il y a une file de gens qui ne peuvent pas rentrer là, mais la prochaine fois, on sera à Wembley. Tout le monde pourra venir Bezrat Hashem. Au temps du Machiav, sachez qu'il n'y aura plus de place, il faudra prendre notre place bien à l'avance. En tout cas, donc il a dit, peut-être il va me faire des tours de terrain, ce roi, il va me faire des feintes et tout ça. Il lui a dit, je t'accepte à une condition, c'est que tu pourras venir, tu pourras me servir, tu pourras profiter de toutes les choses qui sont dans ce palais, mais tu n'auras jamais le droit de me remercier, tu n'auras jamais le droit de dire aux gens qui sont autour de toi les bontés et les bienfaits que j'ai fait de t'accueillir dans ma famille, tu ne pourras pas débarrasser la table. Makainish l'sponja, ça veut dire il n'y a pas la serpillère. Tu ne fais pas la serpillère, tu ne fais pas la vaisselle, tu ne fais pas tous les travaux et les chèques ménagères. À autre, il dit, je croyais avoir gagné au loto, cette fois-ci, je suis sûr que j'ai gagné. Il dit quoi? Le roi, non seulement non content de m'inviter dans son palais, je vais passer du statut d'indigent au statut de fils de roi, et en plus, il me demande de ne rien faire, de ne rien faire pour l'honorer, de ne rien faire pour... Il a dit, mais bien sûr, j'accepte cette proposition. Alors ce clochard est rentré dans le palais royal. Il a mis ses vieux vêtements, il les a mis dans le placard, il a commencé à se revêtir des habits royaux et tout ça. Ce n'était pas les habits royaux avec les marques, c'était les habits royaux avec l'or et l'argent, les diamants et tout ça, des beaux habits. Et tout le monde s'est mis à sa disposition. Le roi leur a dit, mes amis, voici un nouveau fils qui est venu parmi nous. Il faut que vous lui rendiez hommage. Chaque chose qu'il dira, chaque parole qu'il dira, vous devrez l'accomplir. Alors tout le monde se mettait aux ordres, tout le monde venait et tout ça, très content. Au début, il profitait, il jouissait de cette grande popularité et tout ça. Il était content. Mais passé un certain temps, il s'est demandé, il a commencé à repenser à ses camarades de misère, à ses amis. Il s'est dit, où sont passés tous mes amis? Qu'est-ce que j'ai fait moi pour mériter ça? Que du jour au lendemain, je me retrouve dans cette maison, tout le monde me rend hommage, tout le monde me rend service. Et moi, je ne peux pas rendre service au bienfaiteur qui m'a prodigué tout ce plaisir et tout ce bonheur. Il a commencé à sentir le sentiment de l'ingratitude, Mourai Berabotai. Kafoui Tova, l'ingratitude, c'est le pire sentiment que l'homme peut ressentir quand il se sent redevable de quelqu'un. Il est allé trouver ce roi. Il lui a dit, mon roi, il dit, j'ai beaucoup profité à tes côtés. Il dit, mais je dois te dire que je dois quitter ce monde. Je dois quitter ce palais et retourner auprès des miens. À l'époque, quand je mendiais sur la place publique, ici, ils sont tellement riches, les gens, qu'il n'y a pas de mendiants. J'ai vu qu'ils ont des jolies voitures et tout ça, mais vous allez voir que la richesse, ce n'est pas tout à fait ça à Rabotaille. D'ailleurs, on le voit avec les fluctuations de la bourse. Je ne veux pas vous angoisser ce soir. On parlera de ça après. C'est le patron qui dirige tout, Mouraï Berabotaille. La richesse, c'est les choses qui sont éternelles. La richesse, ce n'est pas les choses qui sont éphémères, parce que du jour au lendemain, on était riche, on peut être pauvre. Par contre, vous voyez des sages de la Torah, ils ont travaillé, Messirut Nefesh, ils se sont battus toute leur vie, ils se retrouvent en Auschwitz. On peut leur prendre leur vie, mais on ne peut pas leur prendre leur Neshama. Et la lumière de la Torah qu'ils ont, ils la gardent. Un jour, ils ont capturé le Baal HaTanya, c'était un des grands maîtres. Ils l'ont capturé, ils l'ont jeté dans un cachot. Il leur a dit, mes amis, ne vous fatiguez pas, vous mourrez jamais. Il dit, vous mourrez, vous avez eu mon corps, mais mon corps, ça compte pas. L'homme, il est là où sa pensée, elle est. Ma tête, elle est au Beit HaMidrash. Ma tête, elle est en Tzé Shalom, en train d'étudier la Torah. Vous avez beau me mettre dans les prisons, je suis en train d'être avec mon Créateur, en train de réfléchir sur les textes plurimillénaires de la Torah. Vous mourrez jamais. La Torah, c'est la seule chose qui compte, Rabotaï. C'est la seule chose qui est éternelle et c'est la seule chose qui nous fait vivre pour l'éternité. Alors, celui-là, il est parti voir le roi. Mais tu te rappelles à l'époque, voilà, moi j'étais là-bas, je recevais un peu de pain, un peu de cornichon, je me faisais un bon petit apéritif comme on a eu en préambule et tout ça. J'espère que vous avez tous bien mangé, on va manger après, les Drat Hachem. Alors il a dit, j'étais content de tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il a dit, après vous m'avez recueilli, et vous m'avez amené chez vous. Et maintenant je ne mérite plus tout ce que j'ai. Avant, les gens ils voyaient que je faisais un peu de travail, je faisais le ménestrel, je jonglais avec des boules, je faisais des acrobaties et tout ça. Maintenant je ne fais plus rien, il dit, donc je ne mérite plus. Il dit, avant, ce que j'avais, je ne le devais qu'à moi-même, parce que je faisais en sorte de mériter ce que j'ai. Mais maintenant je ne le mérite plus. Il a dit, donc je ne dois quitter ces lieux. À moins que vous me permettiez que la condition initiale, qui avait l'air d'être la condition sine qua non pour mon entrée dans ce palais, qui était que je n'ai pas à vous servir, vous la retiriez. Si c'est ainsi, alors j'accepterai de rester dans ce palais, de profiter de tous les plaisirs, mais je pourrais dire combien vous êtes un roi extraordinaire, combien vous êtes quelqu'un de grandiose, combien vous m'avez procuré, vous m'avez sauvé la vie, vous m'avez accueilli dans votre famille, je pourrais vous servir, vous amener le tchouk-tchouka, le kfitchasra, où il y a le thé, toutes les choses et tout ça, je pourrais vous faire un très bon service et tout ça à l'ancienne, comme des bons serviteurs. Alors là, ce roi-là, il est revenu sur sa parole, il lui a dit d'accord. Et il lui a permis, et donc ils ont vécu ensemble, ils vivirent longtemps, et chacun il a eu des enfants de son côté, parce qu'il n'y avait pas le Pax à l'époque, Rahman and Islam. Oui, parce que malheureusement, aujourd'hui, on ne sait plus où sont les valeurs, malheureusement. Mouraï Berabotaï, ça c'est le machal, c'est l'allégorie. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça s'est passé exactement. En réalité, avant qu'on soit créé dans ce monde, notre Neshama, elle était dans le Olam Elyon, Mouraï Berabotaï. Notre Neshama, mes chers frères, elle était dans le ciel. La Neshama était dans le ciel, auprès d'Akadosh Baruch Hu. On était assis dans la table du roi. Le roi des rois nous nourrissait. Il nous faisait des divrei Torah qui réjouissaient la Neshama. Si aujourd'hui on peut se réjouir d'un Dvar Torah qu'on est en train de dire, à la Hat Kama Vekama, on était à plus forte raison, comment on se réjouissait d'une façon extraordinaire des divrei Torah qu'Akadosh Baruch Hu, Birvodo, Beatzmo, notre Dieu, il venait, il éclairait toute la Neshama des gens. On était tous assis autour de cette table. Malheureusement, Mouraï Berabotaï, on mangeait le pain qui s'appelle Na'amad et Kisufa, le pain de la honte. Pourquoi le pain de la honte? Parce qu'on n'a pas mérité tout ça. Qu'est-ce que tu as mérité? Pourquoi tu mérites de t'asseoir à la table d'Hachem et de goûter, de te délecter de ce pain extraordinaire des divrei Torah d'Akadosh Baruch Hu? Alors les hommes sont venus trouver Hachem. Ils lui ont dit, Ribono Shalola, maître du monde. Il dit, on veut être tes serviteurs. On veut continuer à écouter. On veut continuer à vivre dans ton palais. À la manière, je vous fais un petit corollaire au cas où il y en a qui ne pensent pas aussi vite dans la bourse que dans la divrei Torah. Parce que parfois, c'est pas quand on n'a pas l'habitude, on ne sait jamais. En plus, après une journée de travail, ça peut être difficile, donc je vous fais un petit corollaire. Donc de la même façon que le roi, il a dit, j'accepte de venir avec vous et tout ça, si jamais je vous sers, de la même façon, l'autre, il a dit, Hachem, on accepte de venir, parce qu'on veut être dans le palais, comme l'autre, il voulait être aussi dans le palais, mais on veut que tu nous fasses en sorte qu'on puisse te servir. On voudrait te servir. Alors il a dit, Hachem, il a dit, d'accord. Il dit, je vais créer un monde. Je vais vous mettre dans un corps. Vous aurez le choix dans ce monde de faire le bien et le mal. De choisir la vie ou la mort. Et vous choisirez la vie. Vous allez être confronté à un ennemi redoutable qui s'appelle le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Le fait de surmonter ces passions, ces pulsions, ces plaisirs du monde, ces difficultés que vous allez avoir à surmonter, il dit, ça fera en sorte qu'à la fin de votre vie, vous pourrez revenir. Vous aurez sanctifié le nom d'Hachem dans le monde. Vous aurez remercié le monde par les brachot que vous faites avant de manger, par les brachot que vous faites après avoir mangé, par les tfilot que vous faites le matin quand vous vous réveillez, par celles que vous faites quand vous allez dormir, par les mitzvot que vous faites. Vous sanctifierez le nom de Dieu. Vous le remercierez. Vous direz combien c'est un Dieu miséricordieux, combien c'est un Dieu bon, combien c'est un Dieu qui nous a accueillis. Et là, vous reviendrez dans le ciel, vous réjouir des divrei Torah d'Akadosh Baruch Hu, mais cette fois-ci, vous ne mangerez plus le pain de la honte. Vous mangerez le pain du mérite. Vous aurez mérité votre place dans le monde futur. Donc, Mouraï Berabotaï, cette vie, ce monde n'est qu'un monde d'épreuves. C'est un monde difficile. C'est un monde dans lequel nous sommes venus pour œuvrer. Un monde dans lequel nous avons demandé nous-mêmes, quand nous étions dans le monde, dans le Olam Aïlian, dans le monde, dans les sphères célestes, nous avons demandé à Kadosh Baruch Hu de nous mettre dans ce monde-là pour qu'on puisse œuvrer pour la grandeur de son nom, pour qu'on puisse se dépasser, pour qu'on puisse lutter contre les forces obscures et triompher sur la vie. Pour faire triompher la vie, pour faire triompher le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et à la suite de tous ces... J'ai pas dit de machal, là, qu'est-ce qui se passe? C'est fou, ça. Ça marche pas ici, il faut régler, Rabbi. À la fin de tout ça, à la fin de toutes ces choses-là, vous reviendrez, vous assirez à la table du roi, mais cette fois-ci, vous pourrez vous délecter de tout ce que vous avez œuvré. Moi, Birabota, vous le savez aussi bien que moi. Ce qu'on a travaillé de toutes nos forces, ce qu'on a investi comme force, ce qu'on s'est donné à fond dans le travail... Ce qu'on s'est donné à fond dans les mitzvot, on récolte le fruit et on peut en jouir. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le sentiment d'ingratitude. Mais si quelqu'un, par exemple, il reçoit du jour au lendemain quelqu'un qui vient et qui lui donne 10 millions de dollars, il dit, premièrement, il va les dépenser aussi vite que ce qu'il les a gagnés. Ça, c'est un. Et deuxièmement, comme on voit les gens qui sont au loto, dès qu'ils gagnent l'argent, quelques temps plus tard, ils le dépensent. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la valeur de ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas œuvré, ils n'ont pas travaillé pour pouvoir arriver à leur finalité. Premièrement, c'est ça. Et deuxièmement, la personne, quand elle sent ce sentiment d'ingratitude, là, elle dit, moi, je préfère être un misérable, mais ne rien avoir à devoir à ce roi-là, plutôt que d'être le fils du roi et d'avoir tout qui m'est dû. C'est la raison pour laquelle on comprend que ce monde-là, qui est si merveilleux, mais qui est si à la fois si difficile, c'est pas possible qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde que pour ici. Rabotaï, on se lève le matin, on va au travail, on rentre le soir, on dort, on mange. Vous croyez que c'est ça, la vie ? Vous croyez qu'Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, le maître de l'univers, il a créé un monde aussi extraordinaire, un monde aussi beau. Vous voyez les beautés de la création. Il y a des sages de la Torah qui étaient capables de s'évanouir devant des roses. Ils voyaient la beauté de la création d'Akadosh Baruch Hu, la main d'Hachem dans chaque détail de la création. Tu vois le ciel comme il est merveilleux, comme il est bleu. Tu vois la mer à perte de vue, les animaux, toute la faune et la flore, toutes ces choses-là, c'est tellement extraordinaire, Moray Barbataï. Vous croyez qu'Akadosh Baruch Hu, il a pu créer ce monde-là pour que l'homme, il vienne, il mange, il aille au métro, il va faire dodo, après il fait tout, c'est pas possible. Rabotaï, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Ce monde-là, dit Rabbi Yaakov, dans les pierres carottes, n'est que l'antichambre du monde futur. Prépare-toi dans le couloir de ce monde pour entrer dans le palais royal du monde futur. Ce monde-là est une préparation pour le monde futur. Alors qu'est-ce qui nous empêche de s'attacher à la lumière de la Torah? Qu'est-ce qui nous empêche de nous attacher à l'essentiel, au message qu'Akadosh Baruch Hu a voulu nous délivrer, à l'essence même de notre vie dans ce monde? On doit se demander cette question. Vous savez, Rabotaï, quand on étudie la Torah, moi je vous dis mon sentiment personnel. Je suis passé par tous les chemins. J'étais dans les universités, j'étais dans les mouvements de jeunesse, j'étais dans le sport de haut niveau, j'étais partout. J'ai circulé dans le monde de la politique, de la diplomatie. J'ai vu des gens fous un peu partout. J'étais partout. Je vous dis le sentiment de bien-être et de bonheur et de quiétude et de plénitude qu'on peut avoir quand on étudie de la Torah. Il n'y a pas un sentiment comme ça qu'on peut ressentir. On a une euphorie qui nous gagne, on a envie de faire les tours de terrain, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a envie de faire des choses incroyables, on a envie de sauter, on a envie d'embrasser les gens, de les rapprocher, de leur faire voir cette lumière, on a envie de les faire partager cette chose-là. La Torah, c'est la chose qui nous réjouit, elle fait vibrer nos âmes. Pourquoi ? Parce que ça touche directement ce pour quoi on a été créé. C'est le but même de la création de l'homme, c'est d'étudier cette Torah pour pouvoir avoir le mérite de remonter dans les sphères célestes et de contempler Ziv Pene Hashekhina, de contempler la splendeur divine dans le monde de la vérité. C'est pour ça qu'on a été créé, c'est pour ça que toutes les mitzvot sont données à l'homme. Toutes les mitzvot, elles visent à faire en sorte que l'homme il se purifie les yeux, qu'il se purifie l'âme, qu'il purifie son corps pour pouvoir faire en sorte de pouvoir voir de plus près Akadosh Baruch Hu dans le monde futur. Et plus on est proche d'Hachem dans le monde futur, et plus on est dans une joie infinie et intense. C'est pour ça que ce monde-là, il ne faut pas le négliger. Chaque jour, on a le sroud de pouvoir faire des choses extraordinaires. Chaque jour, on a le mérite de pouvoir se rapprocher du Créateur, de pouvoir aider les gens qui sont autour de nous, de pouvoir faire des bonnes choses, de pouvoir faire toutes sortes de choses, de pouvoir faire la volonté du Créateur pour lui remercier et pour faire en sorte de mériter de s'asseoir à sa table et de mériter de prendre le pain du mérite à cet instant. C'est la raison pour laquelle, et pourquoi alors les gens, parfois, ils peuvent ne pas connaître cette lumière de la Torah, pourquoi ils peuvent ne pas ressentir ce bien-être. On dit que c'est marqué dans le Tehilim de David Ameller. Il nous dit de la même façon qu'une biche, elle aspire à un cours d'eau, de la même façon la Neshama, elle aspire à Kadosh Baruch Hu. Vous avez déjà vu une biche dans le désert qui a très soif ? Vous avez vu Bambi dans votre enfance? Parfois, elle a très soif, elle va commencer à gambader, à gazouiller dans l'herbe, et ça, elle va se rouler par terre. N'est-ce pas? Vous l'avez vu, elle commence à tourner. Elle a très soif dans le désert. Vous imaginez la soif qu'elle a et la joie qu'elle va avoir en découvrant ce cours d'eau qu'elle convoite depuis si longtemps. Eh bien, sachez que la Neshama, elle convoite la lumière divine et l'eau de la Torah Akdosha de la même façon que cette biche, elle convoite ce cours d'eau, de la même façon la Neshama, elle convoite ça. C'est pour ça que les gens, ils courent dans ce monde. Toujours on est en train de courir après quelque chose, mais on ne sait pas après quoi on court. Mais en fait, c'est ça la source de tout, Mouraï Berabotai. Les choses qui rassasient, la seule chose qui peut rassasier l'homme, c'est la chose qui est spirituelle. L'homme qui prend cette lumière de la Torah, il est rassasié pour la vie, pour l'éternité. Alors, Mouraï Berabotai, comment c'est possible qu'on n'arrive pas à s'attacher à cet essentiel? Comment c'est possible qu'on n'arrive pas à se réveiller, à faire la volonté d'Hachem, qui est avant tout la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est la volonté de l'homme. Akadosh Baruch Hu, pourquoi il a fait en sorte que l'homme il fasse sa volonté? Vous savez, Akadosh Baruch Hu, il en a rien à faire qu'on fasse beaucoup de mitzvot, pas beaucoup de mitzvot, qu'on fasse beaucoup, un peu, qu'on fasse... Hachem, c'est le roi du monde, c'est le patron, il n'a pas besoin de nous. C'est pas nous, les petites créatures, les petites gouttes dans l'océan que nous sommes dans ce monde-là, qui allons changer quelque chose à la donne. Hachem, il était là avant nous, il sera là après nous. Mais Hachem, c'est comme un père. Pourquoi il demande à son fils de faire des études parfois, ou de faire des choses qui vont faire en sorte qu'il va réussir sa vie? C'est parce que le père, il veut être fier de son enfant. Akadosh Baruch Hu sait que la seule façon d'acquérir le bonheur dans ce monde-là, c'est de se rapprocher de Maïm Chaim, des eaux vives de la Torah, de la source d'eau vie. La Torah est un arbre de vie pour celui qui s'y attache. Celui qui est proche de la Torah, il est heureux dans ce monde. Donc Hachem, pourquoi il nous dit de faire les mitzvot? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit heureux, il sait que le mode d'emploi pour être heureux, c'est la Torah. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné ça, pour qu'il puisse être fier de nous, pour qu'il voit qu'on est content et Akadosh Baruch Hu va se réjouir de ses enfants. Ne croyez pas qu'on est des serviteurs, que Akadosh Baruch Hu, il attend qu'on le paye, qu'on le rémunère. Quand on fait la Torah, c'est dans notre intérêt à nous d'abord. Comment c'est possible qu'on ne puisse pas sentir ça? Rabotai, on a compris que cette vie-là, elle sert à surmonter toutes les épreuves. Celui qui finit à surmonter, il s'assoit dans le monde de l'éternité. Quelle est la différence entre la Teshuvah et la Teshuvah chez les mains? C'est la même chose qu'il y a entre la refoua et la refoua chez les mains. Vous savez ce que c'est la refoua? C'est le rétablissement. Quand quelqu'un il est malade, chas v'shalom, on va chercher. Il y a deux éléments dans la maladie. Il y a les causes de la maladie et il y a les effets de la maladie. Les docteurs, ils peuvent agir sur deux fronts. Ils peuvent agir sur les effets de la maladie et ils peuvent agir sur les causes. Si jamais ils agissent sur les effets de la maladie, alors le temps va passer et malheureusement la maladie va revenir. Elle va se renforcer, il va y avoir d'autres symptômes qui vont arriver et ça va... Comme si elle va surenchérir cette maladie, malheureusement. Mais si jamais le médecin veut réussir à déraciner le mal, il doit arriver à déraciner les causes de la maladie et non pas se contenter de ses conséquences. De la même façon, et de ses effets. De la même façon pour la teshuva. Pour la teshuva, il y a deux types de teshuva. Il y a la teshuva d'un homme qui va faire une teshuva sur ses fautes. Il a dit, voilà, j'ai pas mangé kasher, je vais faire teshuva sur la kashrout. J'ai fait, chas v'shalom, des relations interdites avec les femmes et avec les hommes et tout ça, ou parfois on sait jamais, tout ça, n'est-ce pas? Je préfère pas imaginer le pire. En tout cas, parce que la Torah, c'est marqué. Bon, je vous dirai après pour ne pas vous traumatiser. Bref, je dirai un Ramban qui est cité quelque part. Donc, en tout cas, il a fait des averot. Donc, le gars, il va faire tchouva sur une avera. Rabotai, s'appelle la tchouva, ça. S'appelle la tchouva. Ça s'appelle pas la tchouva chez les mains. Qu'est-ce que c'est la teshuva chez les mains? La teshuva chez les mains, c'est de faire teshuva sur la racine des fautes. Quelle est la racine des fautes, Mouraï Berabotai? C'est un ennemi redoutable, qu'on connaît tous mais qu'on ne connaît pas. On a entendu parler de lui mais on ne l'a jamais localisé, on ne sait jamais qui c'est vraiment. Et ce soir je suis venu en avant-première vous le révéler et vous le décrire. De Bnei Brak, j'ai dû venir de Bnei Brak pour vous dire ça. C'est le Yetzer Hara, Mouraï Berabotai. Le Yetzer Hara, le mauvais penchant, c'est un roublard, c'est un voyou. La Gemara le qualifie de voyou, de Menouval. Il est redoutable. Il y en a qui le connaissent parmi vous. Je sais qu'il fricote avec vous parfois et il fricote avec nous tous. Et plus on est grand et plus il est grand, plus il se renforce. C'est un boxeur redoutable. Il peut nous mettre KO, mais l'essentiel c'est de rester debout. Je vais ce soir, Bezrat Hashem, avec l'aide du ciel, vous décrire ce personnage redoutable pour qu'on puisse faire tous ensemble teshuvah chez les mains. Pourquoi? Parce qu'on va attaquer la racine du mal. La racine du mal, Mouraï Berabotai, c'est de le localiser. On le cherche par ici, par là, comme à la boxe et tout ça, on lui fait décrocher. On l'a trouvé, on l'a localisé, on peut l'exterminer. Si jamais tu le cherches et tu le découvres, tu peux le terrasser. Mais si jamais toi tu fais juste une teshuva par ici, par là, mais que tu n'assommes pas ce Menouval, ce grand bandit, ce grand voyou, alors il va se renforcer à chaque instant de ta vie, il va venir, il va te terrasser. Il faut réussir, Mouraï Berabotai, à se battre et à le découvrir. Une fois que tu l'as découvert, sache que tu es un des seuls dans cet univers. Parce qu'ils sont rares ceux qui ont le privilège d'entendre ces paroles de Torah. Ils sont rares ceux qui ont le privilège d'entendre ces paroles de lumière et de vérité. On a beaucoup de chance, Rabotai. Moi, je remercie Hachem chaque matin quand je me lève et chaque soir quand je vais. On fait une prière juste avant de commencer à étudier et après avoir étudié. On remercie Akadosh Baruch Hu qui nous a placés parmi ceux qui ont le scoop d'entendre les paroles de la Torah. Vous croyez que c'est donné à tout le monde? Il y en a qui habitent au Pérou, en Bolivie, en Inde. Ils n'ont pas la chance d'habiter dans un endroit dans lequel on peut entendre des paroles. Vous imaginez pas quelle chance on a de pouvoir se délecter de la gloire divine, de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il est parmi nous. À chaque fois qu'il y a une réunion d'études de Torah, Akadosh Baruch Hu, il vient. Il nous fait du bien dans notre âme. Pourquoi vous croyez qu'on se sent léger? Pourquoi on sent qu'on a des forces? Et pourquoi on sent qu'on est pris d'un brasier, d'un feu dévorant? C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est présent avec nous et il est en train de nous allumer le cœur. C'est les feux de la Torah qui brûlent en chacun de nous et qui éclairent toute l'humanité. C'est le feu de la Torah, Mori Verabotai. Je vous ai dit tout à l'heure. Une phrase, je vous ai dit que la Neshama elle descend d'ici pour avoir des épreuves. La Neshama, on le voit ça dans la paracha de Kitetsé. On a lu la paracha de Kitetsé il y a quelque temps, je vais vous faire un petit extrait de la lecture. Kitetsé la milchama loivecha untano Hashem elokecha biyadecha veshavita shivyo. Je lis la traduction, bien entendu, certifiée par le code napoléonien. C'est une blague, bien sûr. Quand tu sortiras pour la guerre sur tes ennemis, Hachem, ton Elohim, Akadosh Baruch Hu, ton Dieu, le donnera dans ta main, tu captureras sa captivité. Donc la Torah nous dit, quand on va aller en guerre contre les peuplades et tout ça, comment il faut se comporter et tout ça, il dit, n'aie pas peur des ennemis, n'aie pas peur d'Al-Qaïda, n'aie pas peur de l'autre, là, le nain de jardin, Ahmadinejad, n'aie pas peur de tous ceux-là qui te font peur et tout ça, qui te montrent la bombe atomique. Hachem Elokecha Imach, Hachem il est avec toi, c'est lui qui mène la guerre, Hachem il est Milchama, Hachem Shemon, on le dit dans Asia Shemoshé, tout celui qui chante dans Asia Shemoshé, il faut qu'il prenne la traduction pour qu'il voit, Akadosh Baruch Hu on l'appelle le roi des guerres, c'est lui qui mène la guerre. D'ici Hachem il a décidé qu'on allait les esquinter, on va les esquinter, il faut pas avoir peur à vos tailles. Donc Hachem il nous dit voilà ce qui se passe quand vous allez aller contre les gens, n'ayez pas peur d'eux, vous allez sortir en guerre, Akadosh Baruch Hu il va placer l'ennemi dans ta main, tu vas capturer sa captivité et tout ça. Le Or HaChaim HaKadosh, qui était un grand maître de judaïsme séfarade, nous explique quelque chose d'extraordinaire. Le Or HaChaim Rabbi Chaim Ben Attar. C'était une lumière de la Torah d'il y a 400 ans environ au Maroc. C'était un rave extraordinaire. Il explique en fait que Kitetse la Milchama Loivecha, le verset nous parle que la Neshama elle descend du monde de la vérité et elle vient en guerre dans ce monde-là. Contre qui? Contre l'ennemi dont on a parlé tout à l'heure. Kitetse la milchama. Pourquoi il dit ça? D'où c'est qui c'est? Il a le roi Hakodesh, il dit ça parce qu'il a un souffle divin, il a fait des découvertes sans nous dire ce qui se passe. Il amène une preuve du verset. Kitetse la milchama, c'est marqué. Normalement, si on avait voulu parler de toutes les lois relatives aux guerres, on aurait dû dire Kitetse la milchamot, quand vous sortiriez en guerre au pluriel. Pourquoi on te dit quand tu sortiras dans la guerre? C'est pas marqué Kitetse la milchama, c'est marqué Kitetse la milchama, dans la guerre, quand tu sortiras en guerre. Alors il dit Aloy Vecha contre ton ennemi. Cet ennemi aussi, c'est pas quand tu sors en guerre, tu sors contre un seul ennemi, tu sors contre plusieurs ennemis. Donc le Rahim nous dit que cette chose-là, elle fait allusion à la Neshama du Ben Israël. La Neshama, notre âme, elle est dans le sphère céleste. À un moment, Akadosh Baruch Hu envoie cette âme du sphère céleste en bas. Et Akadosh Baruch Hu nous prévient dans cette paracha. Quand un âme, elle va sortir en guerre contre qui? Contre le pire ennemi que tu as dans ta vie, c'est le Yitzhara. Alors comment tu vas faire pour te battre contre lui? C'est très difficile. Comment l'homme il peut réussir à se battre contre lui? C'est quelque chose de dur. Normalement, l'homme, il n'a pas de... Comment on peut lutter contre un ange? Contre un homme, on peut lutter. Contre une armée aussi. Contre un ange. L'ange, il est beaucoup plus puissant et beaucoup plus fort que nous. La Torah nous rassure et elle nous donne la solution, Mourai Berabotai. Il faut juste lire le verset. « Kitetse la milchama loivecha » quand tu sortiras en guerre contre ton ami. « Untano Hashem elokecha biadecha » Akadosh Baruch Hu, il placera l'ennemi dans ta main. Quelle est la seule chose qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous? C'est qu'on sorte en guerre contre cet ennemi. Si jamais on a localisé cet ennemi et qu'on a décidé de prendre sur nous, de nous battre contre lui, Akadosh Baruch Hu le placera dans notre main. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu sait très bien qu'on n'a pas des forces surhumaines, on n'a pas des forces d'anges, on n'a pas des forces supranaturelles, on a des forces d'hommes. Akadosh Baruch Hu, il te demande juste que tu fasses ishtadlut, que tu fasses ce que tu peux faire, Akadosh Baruch Hu, il fera ce que tu ne peux pas faire. Il dit, c'est la raison pour laquelle celui qui a compris cette chose-là, kitetse la milchama untano biyadecha, si tu sors en guerre, Akadosh Baruch Hu, il te le placera dans ta main. Donc n'aie pas peur. Maintenant, pour sortir en guerre contre lui, avant de se battre contre un ennemi, il faut le localiser. Il faut savoir quelles sont les forces ennemies. Chaque fois quand on va aller en guerre et tout ça, on fait les repérages et tout ça, le satellite et tout ça, où il y a les parachutistes qui viennent, ils font un petit repérage et tout ça, ils appellent les autres, ils leur font passer des mails et tout ça, des fax et tout. Comme vous, ils vous ont rapatrié avec les mails, les fax et tout. De la même façon, quand on va faire la guerre et tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils leur envoient des petites télégrammes et tout ça à l'époque. Là, le morse et tout ça. Ils leur font des sonneries, ça, des drinks. Eh oui, je sais que ça vous fait rire, mais en attendant, c'est très grave. L'heure est grave, Rabotai. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, on dit que celui-là, on lui envoie des signaux. Il faut savoir à qui on a affaire pour pouvoir le combattre. Il y a deux sépharim qui ont été écrits par nos Rishonim et nos Acharonim, nos premiers commentateurs et nos derniers commentateurs. Le premier, c'est le livre du Rabbeinu Bechaye, un des grands maîtres de la Torah, qui a écrit le Chovot HaLevavot, les obligations du cœur. Il nous explique dans ce livre que le Yetzer Hara, c'est le pire ennemi. C'est l'ennemi le plus redoutable de l'homme. Il traque l'homme depuis qu'il se réveille le matin, jusqu'à ce qu'il va faire sa sieste, jusqu'à ce qu'il va dormir. Du matin jusqu'au soir, il est à tes côtés. Toi, tu crois que tu es tranquille et tout ça, sache qu'il est toujours à côté de toi, il est toujours avec toi, il ne t'abandonnera jamais. Il est avec toi, il te surveille. Il est avec toi. Du matin que tu te lèves jusqu'à la fin. Cet ennemi-là, Rabotai, il veut t'extirper du monde futur. Ça, vous l'aurez compris, puisqu'on a dit que tout le but de l'homme, c'est d'avoir des épreuves. L'épreuve, c'est quoi? C'est le Yetzer Hara qui vient mettre toute une série d'épreuves devant l'homme. Donc, il veut t'extirper du monde futur. Mais non content de t'extirper du monde futur, il veut t'extirper aussi de ce monde-là. Parce que toi, alors là, tu ne peux pas comprendre cette chose-là. Comment c'est possible qu'il veut t'enlever de ce monde-là? C'est pas normal. Du monde futur, je comprends, puisqu'il veut m'enlever du monde futur, que je n'ai pas ma place au Olam Haba. Vous avez de la place ici, Rabbi. Soyez le bienvenu. Eh oui, vous pouvez l'acclamer. Par une série de pchit. Même si vous êtes transformé en canette de coca le temps d'une soirée. En tout cas, ce que je vous disais, donc ce Yetzer Hara, c'est un ennemi redoutable. Il est très très dangereux. Il veut le faire sortir de ce monde et du monde futur. Pourquoi de ce monde-là? Rabota, il veut te faire sortir de ce monde parce qu'il veut te priver de la Torah dans ce monde. Et celui qui n'a pas la Torah dans ce monde, il n'a pas ce monde. Celui qui n'a pas la Torah dans ce monde, il n'a pas ce monde. La Torah, c'est la source d'eau vive. On a dit, celui qui goûte à l'eau de la Torah, c'est marqué que la Torah elle est comparée à de l'eau. De la même façon, la Gemara dans Maseret Ta'anit, à la page 7, ceux qui veulent aller s'y référer, on pourra y aller tous ensemble après le cours si vous voulez. La Gemara dans la page 7 de le Talmud, la Torah orale dans Ta'anit, elle nous dit, la Torah est comparée à de l'eau. De même que l'homme ne peut pas vivre sans l'eau et sans le pain. De même, l'homme ne peut pas vivre sans la Torah. De même que la Torah se dépose, de même que l'eau se dépose du point le plus haut vers le point le plus bas. Vous connaissez les sources d'Evian et tout ça. Vous n'avez jamais vu une source d'eau qui remonte? On part au temps de la Gemara. Une fois ça est arrivé, on pourra en parler après si vous voulez. Parce que c'est dans la deuxième partie de la nuit, c'est pour prouver que la Torah elle existe pour ceux qui veulent. Mais bon, je crois que vous avez tellement une face rayonnante que vous avez la preuve. C'est la preuve en voyant vos têtes, c'est la preuve que la Torah elle existe tellement vous êtes beau. Parce qu'on dit que quand la Torah elle est belle et qu'elle rayonne, quand quelqu'un il a la Torah sur son visage, la Torah elle rayonne. Comme Moshe Rabbeinu quand il est descendu du Mont Sinaï. Normalement, là, ce soir, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe et tout ça, mais sûrement que vous êtes déshabitués. Parce que normalement, si jamais on voyait la lumière de la Torah aussi puissante que ce qu'elle est, si jamais vous n'avez pas pu supporter ça, Moshe Rabbeinu, quand il est descendu, il a mis un masque. Parce que la lumière, elle émanait tellement fort de son visage qu'il ne voulait pas éblouir les gens. Alors vous, normalement, vous auriez dû tous arriver avec les lunettes de soleil, mais comme vous êtes poli, vous n'avez pas mis les lunettes de soleil. Mais si jamais on voyait vraiment ce qui se passe maintenant, à l'heure qu'il est, à l'heure où on est en train de parler, on verrait une lumière tellement extraordinaire et éblouissante qui est en train de sauver des vies de tous les gens qui sont dans le monde et qui souffrent. Qui est en train d'adoucir le quotidien, qui est en train de faire remonter un peu les fluctuations de Wall Street aussi, et de là-bas de la City et tout ça, ne vous inquiétez pas, grâce à votre limud Torah, sachez que tout est fonction de la guerre contre le Yetzer Hara, j'ai oublié de vous le dire en préambule, mais c'est une réalité, en fonction de comment on lutte contre le Yetzer Hara, le monde entier y fonctionne. Si on lutte fort contre le Yetzer Hara, alors l'expansion économique va augmenter et tout va aller bien. Si on lutte faible contre lui, alors il va y avoir des problèmes. Je sais que vous êtes un peu dubitatif sur ça, mais sachez que c'est marqué dans la Gemara dans Rosh Hashanah, parce que je sais que la situation est tellement difficile que vous dites que même si on se met un limoud de toute une nuit qu'on fait au Shana Rabba ce soir, ça aidera pas. Mais c'est pas vrai. C'est marqué dans la Gemara dans Rosh Hashanah que tout est fixé de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Combien de pluie il va y avoir dans l'État, combien de finances il va y avoir, combien d'argent on va avoir, combien de richesses on va avoir. Toutes les choses elles sont fixées d'un Rosh Hashanah sur l'autre. En fonction de comment on est dans notre limoud Torah, de notre guerre contre le Yetzer Hara, alors Kadosh Baruch Hu, il fixe des choses qui sont favorables. Donc je vous ai dit comment c'est possible alors que l'homme, le Yetzer Hara veut nous extirper de ce monde et du monde futur. On a dit, celui qui ne s'attache pas à la lumière de la Torah, il est déconnecté de ce monde. Comment c'est possible? Ça, on ne le sent pas toujours, parce que malheureusement, quand on est loin de la Torah, on ne s'en aperçoit pas. Mais ayez foi et confiance en nous. Que nous, une fois, on était un peu plus loin que ça, maintenant on est un peu plus proche et on voit avec nos yeux combien aujourd'hui on est en vie et combien avant on n'était pas tout à fait en vie. Le Yetzer Hara, c'est un chasseur, c'est un menteur. Il veut te voler ton esprit. C'est un voleur d'esprit. Il te fait croire que tout ce qu'il fait, c'est pour ton intérêt. Il te dit, vas-y, tu vas boire un petit ballon de rouge et tout ça, ou deux, trois, quatre petits ballons, tu vas être bien et tout ça. Après, l'homme, il arrive, il est malade, il a très mal au ventre, il est fatigué, il est ivre. Il t'a dit, c'était pour ton bien, pour que tu sois heureux, pour que tu sois content. Abota, il veut ton mal. Toi, tu crois qu'il te fait boire l'élixir de vie, il te fait boire l'élixir de mort. C'est quoi l'élixir de mort? C'est le Sammavet. Le Sammavet, c'est l'élixir de mort, c'est tout ce qui va contre courant de la Torah, c'est un élixir de mort. Chaque fois que tu prends une chose qui s'éloigne un peu de la Torah, hein, sache que tu es en train de goûter à la mort. Pourquoi? Parce que les Averot, vous savez ce que c'est les Averot, Rabotai? C'est les transgressions de tous les commandements. Il y a deux qualificatifs dans ça. Le premier qualificatif d'une Avera, c'est que c'est une faute en soi de transgresser la volonté de celui qui nous donne la vie. Rabotai, il nous donne la respiration, le souffle. Grâce à lui, on peut respirer. Si vous voulez voir la chance que vous avez, le Maharal de Prague, il dit que l'homme, comment il peut être reconnaissant envers son Créateur? Il regarde que la seule fonction vitale, la seule chose qui est indispensable pour l'homme, c'est la respiration, c'est l'air, c'est la seule chose qui est gratuite dans le monde. Allez dans les hôpitaux, allez voir ceux qui sont sous respiration artificielle. Regardez l'appareil respiratoire, comment il est conçu d'une façon parfaite. Il dit, regardez cette chose-là et rendez hommage à celui qui vous fait respirer. Quand la Neshama, t'es allé, alléluia. Toute ma Neshama, elle fait la louange du Créateur, disent nos sages. Quand la Neshima, t'es allé, alléluia. Chaque respiration, elle doit être pour que je remercie Akadosh Baruch Hu de me donner la vie, de me donner à respirer, de me donner à manger, de me donner à boire, de m'avoir donné la chance d'être avec vous, de m'avoir donné la chance d'avoir une bonne famille, de m'avoir donné la chance. Toutes les choses qu'on a dans notre vie, on les doit à quelqu'un, on doit le reconnaître. Il dit donc là, Avera, ça a deux choses. Premièrement, tu vas à contre-courant de celui à qui tu dois tout. Et deuxièmement, la pire chose, c'est que ça t'éloigne du patron. La Avera, ça t'éloigne d'Hachem. Chaque fois que tu fais une Avera, tu t'éloignes du patron. Dès que tu fais une Avera, tu t'éloignes de lui. Dès que tu fais une mitzvah, tu te rapproches de lui. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand tu vois que tu fais une mitzvah et que c'est difficile pour toi de la faire, plus ça t'est difficile et plus tu t'approches d'une façon extraordinaire. Comme le dit notre verset, Shuva d'Hachem Elokecha. Reviens jusqu'à l'Éternel ton Dieu. C'est quoi le shiur de la tchouva, la mesure de la tchouva, Mourai Verabotai, mes chers amis, mes chers frères et mes chères sœurs aussi, parce qu'il ne faut pas les oublier, elles sont là aussi. Elles sont massives, elles sont bien courageuses. Elles sont venues, c'est ça, Baruch HaShem. Et c'est sur elles que le peuple juif repose, parce qu'elles donnent la force à leur mari d'étudier la Torah, elles encouragent leurs enfants à aller au Talmud Torah, comme le dit la Gemara dans Brachot. Elles ont un grand rôle, les femmes. Si vous voulez choisir une femme, choisissez-vous une femme vertueuse. Comme dit le Shlomo Ameler, mensonge que la grâce, vanité que la beauté. Seule la femme qui craint l'Éternel est digne de louange. Si vous voulez faire si vous voulez, moi, vous me donnez des conseils pour placer mes roubles, même si j'en ai pas beaucoup, mais dans le Olam Haba, on en a quelques-uns. Moi, je vous donne des conseils pour choisir la meilleure femme qui pourra vous permettre d'avoir le meilleur Olam Haba. Parce que sachez, mes chers amis, qu'aujourd'hui, les valeurs, elles sont en baisse et en hausse. Mais la seule qui monte toujours, c'est la Torah. C'est la seule qui est toujours en hausse. À Wall Street, dans toutes les choses, c'est la Torah Kdosha. Donc, je vous ai dit, c'est marqué que, Vatem Adelikim Adonai Lohem Chaim Kulechem Ayom. On l'a dit cette phrase-là, on l'a dit pendant Kippour, on l'a dit pendant Rosh Hashanah, on l'a dit pendant Kippour, on l'a dit tous les samedis soirs. Vous êtes tous attachés à Kadosh Baruch Hu aujourd'hui, Chaim Kulechem Ayom, sachez que vous vivez. L'homme qui vit attaché au commandement d'Hachem, il vit. L'homme qui vit détaché des commandements d'Akadosh Baruch Hu, il ne vit pas de façon pleine et entière. Il ne vit pas dans sa plénitude. Son corps vit, mais sa Neshama ne vit pas. Et qu'est-ce qui anime tous nos sentiments? Pourquoi l'homme peut avoir des sentiments de mal-être? Pourquoi l'homme peut avoir un sentiment de bien-être? Ça, c'est en fonction de la Neshama. C'est pas en fonction du goût, c'est pas en fonction du corps, c'est en fonction de l'âme. La vache qui rit, elle n'a jamais ri. Vous êtes d'accord avec moi? Vous allez lui raconter une blague en arabe ou en espagnol ou dans n'importe quelle langue. La vache ne rira jamais. Pourquoi? Parce que cette vache-là, elle n'a pas la Neshama comme nous l'avons. La Neshama, c'est le centre de toutes les potentialités de l'homme au niveau de ses sentiments. Frankel, qui était le disciple de Sigmund Freud, il a été dans les camps d'extermination à Auschwitz. Il a découvert là-bas qu'Akadosh Baruch Hu, il existait. Comment il a découvert? Il s'est dit, c'est pas possible qu'il y a des gens qui sont soumis au même traitement. Il n'y a pas de traitement de faveur là-bas, avec ces Imach Shemon Bezirchlam, ces nazis, qui ont voulu rayer tout le peuple d'Israël. Aujourd'hui, c'est la plus belle revanche que nous avons. Ils ont voulu détruire notre Torah, ils ont fait l'autodafé, ils ont voulu brûler tous nos livres. Aujourd'hui, de faire vivre la lumière de la Torah, c'est la meilleure façon de rendre hommage à tous les déportés, à toutes les personnes qui sont mortes. Pour qu'on puisse dire aux autres, ils ont voulu l'emporter sur notre Torah de vie. Aujourd'hui, nous faisons triompher la vie en faisant véhiculer ces paroles de lumière. Puisque la dernière volonté de ceux qui sont partis dans les camps d'extermination, tu la raconteras à tes enfants. Veigata lebincha. Comme on doit raconter la Haggadah, on doit raconter ce qui s'est passé. Vous leur raconterez qu'on n'a pas abandonné nos cultures, on n'a pas abandonné notre Torah, on n'a pas abandonné notre lumière malgré tout ce qui a pu nous arriver. Alors l'homme qui continue à rester attaché à cette Torah, Chaim Kulechem Ayom, il est vivant. Mais si jamais tu t'éloignes de la Torah, sache que c'est la Neshama qui ressent les choses. Frankel, il a dit, comment c'est possible qu'il y en a qui réussissent à se surmonter toutes ces choses-là, et d'autres qui n'arrivent pas? Physiquement, c'est la même épreuve. Il y en a qui arrivent à se surmonter au niveau de la Neshama et d'autres qui n'ont pas réussi à se surmonter. On n'est pas là maintenant pour juger, pour dire oui, non, qui a surmonté, qui n'a pas surmonté. Moi, j'ai des gens qui sont proches de moi, qui sont morts dans la Shoah et qui pourront parler mieux que moi. Moi, j'ai pas la compétence, je n'ai pas vécu Auschwitz, Baruch Hashem, je ne peux pas parler de ça. Mais je me fais le porte-parole de ceux qui disent ces paroles et vous pourrez leur demander comment ils ont interprété ces choses-là. En tout cas, là-bas, ils ont découvert que la Neshama, elle existait. Celui qui est proche d'Hashem, sa Neshama vit. Celui qui n'est pas proche d'Hachem, sa Neshama ne vit pas. Et c'est la raison pour laquelle on sait qu'à Rosh Hashanah, on dit que le livre de la vie, le livre de la mort sont ouverts. Tous les livres sont ouverts. N'est-ce pas? Et alors on voit des gens, on dit si jamais il a plus de mérite que de choses qui sont négatives, que d'avérotes, alors il est inscrit dans le livre de la vie. S'il a plus d'avérotes que de mérite, il est inscrit dans le livre de la mort. Si jamais il en a autant, il est dans le livre des Bédonis, ça veut dire le livre des médians, jusqu'au jour de Kippour, après les Aseret Yemei Tshuva. Ces 10 jours de Tshuva, ils sont faits pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse avoir la commission d'appel à Kippour et être Zoché Badin, avoir le mérite de mériter la vie. Mais on voit des bandits de grand chemin. Et pourtant, ils sont méritants, ils vivent. Comment c'est possible, Rabotai? Alors quoi, la Torah, elle a dit que ceux qui ont plus de mérite que d'Averot. Il y a plusieurs réponses qui sont ramenées. Une des réponses, je ne vais pas vous les dire toutes, je vous en dis une en passant pour que vous compreniez la réponse principale, c'est qu'il y a des fois, il y a des gens qui font des choses, tu ne sais pas comment ils les font. Et cette petite chose qu'il fait, c'est tellement dur à faire pour lui que ça peut effacer des milliers d'avérotes qu'il fait. Et à l'inverse, tu vois des gens qui sont tzadikim et qui meurent, ils ont fait une avéra qui, à proportion de leur niveau, c'était une grande avéra, ça peut effacer, ça n'efface pas les mitzvot, mais ça peut contrebalancer les mitzvot. Mais une autre explication qui est donnée, c'est que ces gens-là qui ont la vie, ça s'appelle les gens qui ont la vie spirituellement. Ça veut dire, les autres, tu les vois, ils sont debout, mais ils sont morts vivants. Ils n'ont plus aucune relation avec Akadosh Baruch Hu. Celui qui n'a pas de relation avec Hachem, il n'a pas de vie, il n'a pas de chayout. Il n'y a pas une grande différence entre lui et la vache qui rit. C'est pour ça que l'homme, il doit être conscient de ça, de se dire que si jamais tu veux rechercher Akadosh Baruch Hu et t'attacher à lui, tu vas rechercher le Yetzer et te battre contre lui, alors sache que tu seras vivant et sache que tu seras aux côtés d'Akadosh Baruch Hu. Plus tu fais des mitzvot, plus tu t'attaches à lui. Et les Averot, donc, on a compris que ça va extirper l'homme de ce monde-là. Pourquoi? Parce que la seule vie de l'homme dans ce monde, c'est d'être proche de son Créateur. L'homme qui est loin de son Créateur, il n'arrivera pas. Parce qu'il va avoir des problèmes, il va avoir des difficultés, et dans les difficultés, il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu qui peut nous répondre. Dans une crise comme on est en train de vivre en ce moment, la crise financière et la crise boursière et tout ça, vous êtes tous dans le milieu à peu près, vous voyez comment la situation est grave et tout ça. Aujourd'hui, on voit qu'on ne peut plus se fier aux hommes. On ne peut plus se fier à nos amis qui sont haut placés dans les banques, ou qui sont haut placés dans les ministères ou dans les choses. On voit qu'ils ne peuvent plus rien faire pour nous. Et la Torah nous dit « Arur ha-gever asher iftar ba-adam, baruch ha-gever asher iftar ba-shem. » Maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. Si tu crois que ton ami, il va te sortir de là, « Altif tehu bin divim ben ha-shel tushua. » Ne place pas ta confiance en l'homme, il n'y a pas de sauvegarde et de salut par rapport à l'homme. Il ne pourra rien faire pour toi. « Baruch ha-gever asher iftar ba-shem. » Comme on dit dans le Birkat Amazon, « Béni soit l'homme qui place sa confiance en Dieu. » Hachem Iftaho, Hachem il sera avec lui. Plus tu places ta confiance en Dieu, plus il te répond. Tu es dans une situation difficile, tourne-toi vers le patron. Appelle-le, parle-lui. Arrête de parler avec ton livre. Arrête de faire ta tefila en disant voilà, Baruch Ata Hachem et tout ça. Tu dois dire la prière parce que les mots ils sont extraordinaires. Mais commence à essayer de lire la traduction de tes mots pour que tu puisses t'adresser à Hachem. Que tu ne t'adresses pas à ça, tu parles avec le maître du monde, avec le maître de l'univers. Tu es en connexion ADSL avec lui, tu lui parles. Quel mérite on a de pouvoir s'adresser à lui? Rabotai, c'est un mérite extraordinaire. Vous imaginez pas quelle sroute on a. On est les enfants d'Hachem, on est les seuls qui pouvons parler avec lui, les seuls qui avons cette relation unique avec Hachem. C'est quelque chose d'extraordinaire, on n'en prend pas conscience malheureusement. Pourquoi? Encore une fois, à cause de celui de Serra qui veut nous faire perdre de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est de s'attacher au patron. L'essentiel, c'est de s'attacher à Hachem. C'est pour ça, lui, il nous fait boire l'élixir de mort, il nous fait croire qu'on va à la vie avec les Averot. Il dit, fais des Averot et tout ça, c'est ça la vie. Rabotai, c'est pas la vie, c'est la mort. Si jamais tu choisis la vraie vie, tu fais des mitzvot et vous le voyez. J'ai pas besoin, même, je sais que peut-être vous pouvez être dubitatif, mais il n'y a pas de dubitatif parmi vous. Quelqu'un qui voit, une fois qu'il a fait une mitzvah, il voit comment il se sent plus vivant que ce qu'il était avant. Parfois, Kadosh Baruch Hu nous donne des forces, on ne comprend pas comment c'est possible. Quelqu'un, par exemple, il est allé soutenir une personne qui était en difficulté. Il a vu qu'il y avait quelqu'un, soit qui était en difficulté financière, soit qui avait un problème de santé. Il est allé à ses côtés, il l'a soutenu, il lui a parlé, il lui a ravivé son quotidien, il lui a réchauffé le cœur. vous voyez la lumière sur le visage de cette personne. Cette lumière qu'il y a sur ce visage, elle rayonne en vous, elle vous fait revivre. Vous ressuscitez grâce à cette personne. Vous ressuscitez grâce à elle. C'est le sroud de la mitzvah, mon Rabbi Rabotai. Vous vivez grâce à cette personne parce que vous avez fait une mitzvah grâce à elle. Et ça, on le voit. Si par contre, t'es allé faire un petit mini-golf, là, au truc, alors qu'il y avait un qui avait un problème et qui t'a appelé, et toi, t'as dit, moi, j'ai le mini-golf tous les dimanches, j'ai le mini-golf, je peux pas venir, désolé. Le gars, il rentre chez lui, il sent pas trop qu'il est vivant. Il sent qu'il a ce mal-être. Pourquoi ? Parce que quand on fait une mitzvah, on a du bien-être. Quand on fait une avéra, on a du mal-être. Peut-être à court terme, la avéra, elle procure du mal-être à du bien-être à la personne. Mais à long terme, la personne, elle ressent un mal-être profond. La mitzvah, c'est l'inverse. La mitzvah, à court terme, c'est difficile de la faire. C'est dur de se lever à 4h du matin pour aller au slichot. J'en conviens. Ici, c'est à 6h10, bah, au prochain, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller. C'est dur aussi. C'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile. J'ai pas dit que c'était facile. Mais c'est pas insurmontable. Vous pouvez aller. Mais c'est dur. Mais quand tu rentres chez toi et que tu vois tes enfants, tu vois ta femme qui t'accueille et qui te porte en triomphe, tu dis, papa, t'es un champion, t'es un héros, t'es allé au slichot. On est fiers de toi. Rabotai, le sentiment de mal-être qui était de quelques secondes, est-ce qu'il n'est pas complètement enfoui à 100 000 lieues sous les terres, à 100 000 lieues sous les mers, même dans, je sais même pas, même dans les océans, tu ne le vois pas tellement c'est profond. Tu sens ce sentiment de bien-être, pourquoi ? Parce que tu as accompli ta mission dans ce monde, tu as accompli ta responsabilité, tu as répondu présent à la manière de nos patriarches qui répondaient « Ineni, me voici, je suis présent ». Akadosh Baruch Hu m'appelle, il appelle ses enfants au service, on répond présent. L'homme qui répond présent, Rabotai, c'est le plus heureux du monde. Mais l'homme qui répond absent, vous croyez qu'ils vont le laisser tranquille ? Sa conscience, elle va le perébuster jusqu'à la Saint-Glinglin, comme on dit. Tu connais, hein. Comme on dit dans le... avec le père Tarin. Ceux qui ont vu le film peuvent me comprendre, les autres, je les invite à ne pas le voir. Parce que le cinéma, c'est pas très bien, je vais en parler un peu plus tard, mais attention. Donc en tout cas, ce que je vous dis à ce niveau-là, vous l'aurez compris. Vous aurez compris, mes chers frères, que le Soyez Tserara veut nous éloigner de ce monde-là et du monde futur. Le monde futur, on comprend. Plus il nous fait faire d'Averot, et moins on sera méritant de nous rapprocher d'Hachem. Et dans ce monde-là, on a compris que celui qui fait des mitzvot, il s'approche d'Hachem. Celui qui fait des Averot, il s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Donc même dans ce monde-là, il veut nous éloigner. Alors nos sages nous disent que si jamais l'homme, il a décidé de s'inquiéter, de rechercher le Yetzerara, juste qu'il décide de le rechercher, Akadosh Baruch Hu, il va le placer dans sa main. Il faut être courageux, Rabotai. Celui qui est courageux de le rechercher, qui n'est pas comme la majorité des Ahmars du monde, qui vivent et qui subissent l'existence et qui ne se demandent pas qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans ce monde extraordinaire d'Hachem. Akadosh Baruch Hu nous a donné un monde incroyable. Il nous a donné un monde merveilleux, magique. Il y en a qui ne se posent pas la question, qu'est-ce que je fais ici ? Est-ce que je peux me rendre utile ? Ou je vais rester devant MSN, comme un âne de l'écurie, l'âne il est comme ça toute la journée. Il somnole comme un cheval. Celui-là devant son MSN, il est sous perfusion comme ça. C'est un mahboul. À l'heure où tu es en train d'être sur MSN, en train de perdre ton temps, mon ami, il y en a des milliers de personnes qui t'attendent, ils ont besoin de toi. Ils sont dans les hôpitaux, tu peux les ressusciter. Chacun qui va dans un hôpital, qui va voir une personne, il peut lui enlever 1/60 de sa maladie. Tu as des amis à toi qui sont dans le besoin. Tu as des amis à toi qui sont tristes. Tu as des amis à toi qui n'ont pas le moral. Toi, tu peux rester comme un criminel, comme un indifférent devant ton ordinateur, devant ton écran. T'as pas compris, t'es pas vivant, mon ami. Si jamais tu véhicules pas la vie, t'es pas source de vie, t'es pas source de lumière, t'es pas vivant, t'es éteint, t'es comme une bougie éteinte. Si jamais tu t'embrasses, par contre, et t'es là pour tes amis, t'es là pour tes frères, comme vous avez répondu présent ce soir, vous êtes vivant ce soir. Vous êtes vivant. Vous avez répondu présent à l'appel de la Torah. Vous êtes venu honorer la mémoire de quelqu'un, ça s'appelle que vous êtes vivant. Mais l'autre qui reste comme ça, devant Frère Scott, là, et tout ça, les séries là, américaines et tout ça, les feux de l'amour, Jack Abbott, ça va et tout, très bien. Celui-là, Rabotai, il n'est pas vivant. Il n'est pas vivant, Moray Berabotai, c'est un marboule. Victor Newman et les siens, je connais les noms, je me rappelle des noms et tout ça, parfois je les ramène. Je ne sais même pas comment ils ont le mérite d'être dans les trucs, mais bon, peut-être qu'ils ont dû faire quelque chose. Peut-être les gars, ils ont dû faire des choses bien. On a dit qu'on paye l'homme et la femme en fonction de ce qu'ils font de bien et de mauvais. Et peut-être qu'il a fait un petit mérite une fois, il a donné la tzedaka à quelqu'un qui a eu faim, il l'a ressuscité, il a eu mérite de venir ici. En tout cas, je vous dis, quelqu'un, il doit savoir, il doit être toujours en recherche de ce Yetzerara. Ça, c'est ce que le Chovot Alevavot nous dit. Donc le Chovot Alevavot, il nous explique que le Yetzerara, c'est un menteur, il te fait passer des vessies pour des lanternes, la vie pour la mort et la mort pour la vie. Il te vole ton esprit en te faisant croire que tu vas être heureux dans les Averot. Rabotai, j'ai vu les gens d'Ibissa. Je les ai vus. Je tourne, hein, Rabotaï, je tourne. Ne croyez pas que je suis à Bnei Brak, je suis assis. Si je suis avec vous ce soir, c'est la preuve. J'ai vu les gens qui revenaient de là-bas.
Yes, this is the reason. Ask him, no.
Ils parlent l'anglais, l'espagnol et tout ça. Ils savent même plus sur quel. Ils parlent toutes les langues, ceux-là. Les gars, Rabotaï. Les gars. Ils dansent avec le doigt comme ça. Eh oui, je connais les gens qui dansent avec le doigt comme ça. Rabota, ils dansent avec le doigt parce qu'ils mentent. Et en fait, ils ne savent pas qu'ils sont en train de montrer ce qu'ils vont se prendre dans la tête. Je viens de l'inventer ce soir, celle-là. C'est sympa. Non, ils sont en train de danser, les gars, et tout ça. Vous savez, ces gars-là, ils sont en train de danser. Rabota, les gars, ils se font croire à eux-mêmes qu'ils sont heureux. Ils ne sont pas heureux, Rabota. Ils arrivent chez eux, ils sont en bas. Ils sont obligés de se mettre un petit calumet de la paix. Et oui, je connais la Genèse, Rabotaï. Ne croyez pas que je suis un rabbi des temps anciens ou quoi. Je suis avec vous, moi aussi, je connais tout ça. Vous ne pouvez rien me cacher. Rabotaï, il combustionne. Ça s'appelle la combustion. Ils font le passe-passe, le passe-passe. Tu sais. Après, le petit aquarium. Ils vont et là, de faire l'aquarium avec les poissons. Après, ils font l'aquarium chez eux et tout ça. Ils font des choses incroyables et tout. Qu'est-ce qu'ils sont fait? Ils sont obligés de fuir la réalité, les gars. Pourquoi ils fuient la réalité? Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas dans la vérité, Rabotaï. On en rigole, mais c'est malheureux. On n'est pas dans la vérité, donc on est obligé de vivre dans un univers parallèle. J'ai deux solutions quand je suis face à la tchouva. J'ai vu la vérité en face de moi. Je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de moi quelque chose. Je sais que ce monde-là, il a été créé pour un but. C'est pas possible que la finalité de ce monde-là, c'est de retourner être la pâture du ver de terre. Que tu nais de la poussière et que tu retournes à la poussière et que tu vas crouler sous un trou et que les vers de terre, ils vont venir, ils vont te dévorer dans ta tombe. C'est pas pour ça qu'on est venu dans ce monde. La décomposition, la composition, la décomposition. Akadosh Baruch Hu, il est trop intelligent pour faire un monde comme ça. Tu sais exactement. Donc, t'as deux solutions quand tu vois la vérité en face de toi. Soit tu te décales de la vérité en te prenant une bonne dose de JB. J'ai vu la bouteille de 5 litres, s'il y en a qui veulent s'en mettre un peu. Mais ça, je vous l'amènerai après. Si le ravi permet, on prendra tous un petit pot de l'amitié ensemble. Mais bon, il y en a qui sont capables de se boire les 4 litres 5 tellement ils sont complètement déconnectés de l'univers. Soit tu viens, tu te places face à la réalité, tu te dis maintenant, voilà, j'ai un obstacle devant moi. Je ne vais pas me fumer des calumets de la paix, du chanvre doux et du chanvre indien pour pouvoir me mettre... D'un autre côté, non, je vais affronter la réalité, je vais me battre contre celui-ci. Il est en face de moi, je l'ai découvert, je vais commencer à me battre. Et je vais prendre mon courage à deux mains et je vais y aller avec toutes mes forces. Et Hachem, il m'a promis que si jamais je sortais en guerre à Rabotaï, quitte c'est la milchama, il verra, si tu sors en guerre contre ton ennemi, Hachem, il te le met dans ta main. C'est impossible de se battre contre cet ennemi, il est trop puissant, il est trop fort. Mais c'est le patron qui nous aide à Rabotaï. Il est avec nous, de toutes nos forces. Tu fais un pas vers Hachem, il fait 10 pas vers toi. Il te rapproche de lui, il te met des sentiments dans ton cœur que tu n'as jamais ressenti dans ta vie. Tu te sens porté, tu sens que tu te réveilles le matin comme si tu avais dormi pendant 10 heures alors que tu viens de dormir 3 heures, tu vas au Shlichot le matin, tu es fatigué, tu viens toute la journée, tu es comme une bombe. Pourquoi? Hachem, il t'aide. Si jamais tu as décidé de voir la réalité en face et de te combattre cet ennemi, c'est pas lui l'ennemi, lui c'est l'ami. Parce que toujours je suis en train de me regarder dans le chien de faïence celui-là et il va se retourner contre moi, il va me piquer si je continue comme ça. C'est pas lui. Si jamais tu te bats contre cet ennemi, Rabotaï, sache qu'il va te. Akadosh Baruch Hu, il va le placer dans ta main. Le Yetzer Hara, vous savez, c'est un roublard, c'est un méchant, un mauvais. Mais sachez que si jamais tu le bats, il est content. Hein. Lui, il est venu dans ce monde pour te rendre méritant. C'est marqué que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il vit que le monde était beau. Quand il a fini de créer tout le monde et tout ça, il a vu que la lumière, elle était belle. Il a vu que le monde était beau. Il dit, c'est quoi qu'il a vu que c'était beau? C'était Veinetov, c'était marqué. C'est quoi? C'est la Torah, les mitzvot et le Olam Haba. Et il y a marqué une fois dans la Torah, hein, Akadosh Baruch Hu, il a créé quelque chose. Oui, Veinetov Meod. C'était très bon. Alors les gars, ils se disent, attendez. Moi voilà, je suis venu maintenant, j'ai fait des miles et tout ça. On est venu avec mon frère ce que je vous ai dit, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que comment c'est que la guerre la plus importante dans ce monde-là, c'est la guerre contre les Sarah. C'est marqué dans le Pirkei Avot, Ben Zoma, il dit, dans les Maximes des Pères, et Zéhu Gibor, qui est l'homme fort, à Kovesh et Yisro. C'est pas l'aéroport. Parce que moi tout à l'heure, quand j'étais dans l'aéroport, je me suis dit, j'ai crié Yisro et tout ça, et voilà, maintenant je le retrouve ici. C'est pas le même. Et Zéhu Gibor, à Kovesh et Yisro. Non, on est venu de loin, on est venu de l'aéroport, on a fait de la route et tout ça, on est venu jusqu'ici. Donc moi je vous ai dit, je suis en train de vous prendre la tête depuis tout à l'heure pour vous dire la Torah c'est important, c'est extraordinaire, c'est merveilleux, ça nous illumine le cœur, ça m'a sauvé la vie, grâce à ça je peux sauver des gens qui sont dans le monde entier, je vais avec eux, ils sont contents, ils se délectent, chaque semaine j'écris des cours, il y en a qui les lisent, ils sont contents, ça s'appelle les gouttes de lumière et tout ça, je vous les ferai passer parce que vous allez faire passer dans l'assistance une petite feuille dans laquelle on va prendre vos mails, comme ça on garde le contact parce que obligé, parce que moi je vous aime tellement qu'il ne faut pas qu'on se sépare après. Donc j'écris des cours et tout ça. Je vous dis que la Torah c'est tellement important et tout, ça fait plaisir aux gens. Et parfois ils sont dans des situations difficiles, ils me disent ah, les cours de la Torah ça nous a fait revivre. Et maintenant la Torah nous dit il y a quelque chose de mieux que la Torah, puisqu'il y a quelque chose de très bon. Alors qu'on a dit que la Torah elle était bonne, le Olam Haba c'est bon, les mitzvot c'est bon, il y a quelque chose de très bon. Qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash? C'est le Yetzer Hara, le Malach HaMavet, l'ange de la mort. Oui, c'est ça. Et le Nisayon, les épreuves. Ça c'est très bon. La Torah, le Olam Haba et les mitzvot c'est bien. Le Malach HaMavet, l'ange de la mort, les Nisyonot, les épreuves de la vie, et qu'est-ce que j'ai dit, c'est très bon. Il y en a un qui suit, il est bon. Les autres ils se sont endormis un petit moment, c'est pas grave, c'est des micro-siettes, mais vous allez vous réveiller après. Regardez, donc ces trois choses là comment c'est possible? Parce que ces trois choses là c'est ce qui te permet d'accéder à un niveau extraordinaire. Parce que quand t'as pas d'épreuves dans ta vie, alors t'es pas méritant. Mais si jamais toi tu as à combattre ces choses là et que tu les surmontes, l'épreuve qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné, tu le bats sur les tserara, tu te bats contre toutes ces forces obscures et tout ça, tu te bats contre le Malach HaMavet et tu vis et t'es vivant, il dit combien t'es grand. La Torah et tout ça c'est bien, mais ça combien ça te donne un niveau encore beaucoup plus élevé, encore plus extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle tu dois être conscient que le Yetzirah, c'est un ennemi redoutable, c'est vrai. Mais si jamais toi, tu décides de te battre contre lui, sache que lui, il se renforcera. Mais si jamais tu lui cèdes du terrain, alors il va t'esquinter. Si jamais toi, tu te bats contre lui, tu réussiras. C'est la raison pour laquelle il faut sortir en guerre contre lui. Le Messie, c'est Charim, le Rav Chaim Moshe Lutzato, un des grands maîtres de la Torah, qui était un philosophe extraordinaire qui a rendu accessible la Kabbalah au Bnei Israël. Il a écrit, entre autres, le Messie Atzé Charim, la voix des justes que vous connaissez. Et le Derech Hashem, la voix de Dieu, que vous pouvez trouver chez quelques personnes à qui j'en ai fait offrande. C'est marqué là-bas dans ce... Il nous décrit ce Yetzer Hara. Il nous dit qu'est-ce que c'est véritablement ce Yetzer Hara. Ce Yetzer Hara, il nous le décrit comme un général de guerre très expérimenté. C'est un général de guerre qui est très expérimenté. Et de la même façon que quelqu'un, avant de sortir en guerre, il doit apprendre le métier de guerrier. De la même façon, avant de sortir en guerre contre ce Yetzer Hara, tu dois apprendre la technique pour le combattre. Tu dois d'abord savoir comment l'identifier, qui est cette personne, comment il est, comment tu vas faire contre lui et tout ça. Si jamais tu ne sais pas, tu ne pourras pas. Alors il faut savoir que la seule façon de pouvoir lutter contre lui, c'est de vivre avec Akadosh Baruch Hu. Vivre avec Hachem, Rabotai, vous avez le srout. Chacun d'entre vous, vous avez le mérite de pouvoir le faire. C'est quoi? C'est quand je me lève le matin, je dis Modéani. Après, je vais me laver les mains. Après, je vais faire ma prière. Après, je vais aller au travail. Je vais être honnête dans les affaires. Je vais réussir à être une lumière pour les gens qui sont autour de moi. Je vais soutenir les gens qui sont dans le besoin. Je vais donner la tzedaka, je vais aller faire mincha, je vais aller faire arvit, je vais rentrer chez moi, je vais aller étudier une petite heure de Torah, je vais être avec ma femme, je vais la respecter, je vais l'honorer, je vais éduquer mes enfants. Je vis avec Akadosh Baruch Hu à chaque seconde, à chaque instant de ma vie, je suis avec Hachem. Il dit, celui qui est avec Hachem dans tous ses détails, mon frère Terre, il me demande une question, il dit, pourquoi la Torah elle a des détails aussi précis? Pourquoi la 613 mitzvot, on nous dit, si jamais t'accomplis pas la mitzvah dans son moindre détail et tout ça? Alors, il faut savoir que l'amour du détail, c'est ce qui nous fait nous attacher en permanence avec Hachem. Quand tu sais que quand tu vas aller mettre ton pantalon, ou quand tu vas mettre tes chaussures, tu dois mettre d'abord la chaussure droite, après la chaussure gauche. Et tu dois lasser d'abord la chaussure gauche et après lasser la chaussure droite. Je vous ferai un schéma pour ceux qui veulent pour la suite. Ouais. Quand tu sais qu'il y a ça, alors quoi? Même quand tu vas lasser tes chaussures, tu es attaché à Hachem. Celui qui est attaché à Hachem, il lutte contre le Yetzer Hara. Rabotai, vous savez, quelqu'un qui faute, c'est quelqu'un qui a eu un vide, et un problème de connexion, comme il y a eu une coupure de connexion à Internet, ça, tu t'énerves contre le serveur et tout ça. Là, tu as eu une coupure de connexion avec Hachem. Tant que tu es connecté à Hachem, alors tu ne peux pas fauter parce que tu vois Kadosh Baruch Hu en face de toi, Shiviti Hachem le Negizetamid, disait David Améler, je suis toujours en face de l'éternel mon Dieu. Si jamais j'avais conscience qu'Hachem il était en face de moi, est-ce que je pourrais fauter? Je pourrais pas. Donc le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il te déconnecte d'Hachem. Plus tu vis dans le détail, dans l'amour du détail, dans les mitzvot, et plus tu es en face d'Hachem, et moins tu peux fauter. Donc le Yetzer Hara, tu vas le neutraliser par ce biais-là. Plus tu vis dans l'amour du détail, et plus tu réussiras à lutter contre lui. Donc il nous dit, et ce qu'il faut savoir aussi dans un second temps, c'est que le Yetzer Hara, on a dit qu'il n'était pas humain. Le Yetzer Hara est un surhomme. C'est marqué, il oulait Hachem et nos Ozro et nos Yacholo. C'est marqué dans le Talmud, dans la Torah orale. Si ce n'était qu'Akadosh Baruch Hu nous aidait à lutter contre ce Menouval, contre ce bandit, contre ce pire ennemi que nous avons ensemble, l'homme ne pourrait pas. Pourquoi? Parce que il est surhomme, il est surhumain. Tu ne peux pas lutter contre lui. Alors Akadosh Baruch Hu nous dit, si jamais tu te protèges mon fils, si tu te protèges mon frère, si tu fais attention à faire en sorte de te garder, de te préserver, de te protéger, sache qu'Akadosh Baruch Hu il te protégera. Mais si jamais toi t'as dit, moi je ne le cherche pas, le Yetzer Hara, je ne me pose pas trop de questions, je ne me dis pas s'il est là, s'il n'est pas là et tout ça, le Yetzer Hara va te dévorer, il va t'esquinter. Le Yetzer Hara il est sournois, il agit en sous-main. Quand l'homme, et d'ailleurs son nom, vous savez, il a plusieurs noms, etc. Mais un de ses noms s'appelle Samer Bet, Samer Mem. Le Samer Mem. C'est le Samamavet. l'élixir de mort. Et quand on dit samar même, ça veut dire quoi? Ça veut dire samoui minaï. Ça veut dire qu'il est caché de l'œil. La spécialité du Yetzera, c'est de se cacher. Vous avez déjà vu le Yetzera? Il y en a un qui l'a rencontré parmi vous. S'il y en a un qui l'a vu avec ses yeux, moi je voudrais bien qu'il prenne une photo. Comme ça, il va me le montrer. Comme ça, je pourrais le montrer quand je vais parler avec les gens. Parce que moi, je n'ai jamais vu. Sa spécialité, Rabotai, c'est de se cacher. Il dit, c'est la raison pour laquelle l'homme qui le recherche, plus tu le recherches, plus tu le trouves, comme Hachem. Hachem, plus tu recherches Akadosh Baruch Hu, plus tu le trouves. Plus tu veux t'éloigner de lui, plus il se cache de toi. C'est un klal dans la vie. Celui qui a voulu rechercher Akadosh Baruch Hu d'un cœur intègre et qui a voulu être honnête avec lui-même, qui ne s'est pas dit, voilà, la Torah, elle m'astreint, donc je veux dire que la Torah n'existe pas. Parce qu'il y a deux solutions quand tu es face à une problématique et que tu es face à un problème. Tu as deux choses. Soit tu dis, c'est moi qui change, soit je change la réalité, soit c'est la réalité qui va changer. Le gars, il sait que la Torah, elle existe. C'est difficile, ça le contraint. Donc il y a deux solutions. Soit je renie en bloc les principes de la Torah, et ça c'est difficile parce qu'il y a eu des démonstrations. J'ai amené un disque avec moi ce soir là, c'est le DVD s'appelle La preuve irréfutable. C'est un très bon, il est là. Voilà notre mascotte nous l'a présenté. Merci beaucoup. Pas la mascotte, comment on appelle ça? Je me rappelle même plus des mots en français parce que je parle qu'en hébreu. Notre hôtesse de l'air. Notre hôtesse de terre même. Notre hôtesse de terre, c'est beaucoup plus, c'est plus de rigueur. Notre hôtesse de synagogue, la Tzadeket, nous a montré ce disque. Ça s'appelle, comment ça s'appelle? Ça s'appelle La preuve irréfutable. Il est sur leava.fr, vous pouvez aller le voir. C'est un disque qui montre comment Akadosh Baruch Hu il est présent dans ce monde. Donc quand quelqu'un il sait qu'Akadosh Baruch Hu il est dans ce monde, il a deux solutions. Soit il va décaler la réalité et se dire non, Hachem n'existe pas parce que moi je ne suis pas capable de mettre ma volonté en adéquation avec la volonté d'Hachem. Soit l'autre il va se dire la volonté d'Hachem elle est vraie, Akadosh Baruch Hu il existe, mais moi je prends sur moi de dire que je n'ai pas encore la force d'avancer, mais je vais me battre progressivement et jour après jour je veux m'attacher à Hachem. Celui qui a l'honnêteté de cette démarche, il est sûr qu'il arrivera à faire tchouva dans sa vie. Mais celui qui se dit non, Hachem n'existe pas parce qu'il a peur de changer, alors lui il est dans une situation critique et c'est très difficile pour lui. C'est pour ça qu'il faut toujours être honnête et dire voilà, même si aujourd'hui c'est difficile pour moi, jour après jour je vais me battre. J'ai pas demandé aux gens on n'a pas demandé, Hachem ne demande pas de devenir Moshe Rabbeinu du jour au lendemain. Hachem nous demande d'avancer avec nos forces. Jour après jour l'homme il doit avancer. Et celui qui veut et qui sort dans cette guerre là, il reçoit l'aide du ciel. Si jamais tu as décidé de te battre pour arriver dans cette grande chose, tu recevras l'aide du ciel. La Gemara dans Maseret Brachot, à la page 5, nous explique comment faire pour lutter contre le Yetzer Hara. Parce que concrètement, il faut savoir, quand quelqu'un il a envie de faire une Avera, comment il doit faire pour pouvoir se détacher de ça. Alors le Yetzer Hara, il est là, il guette la personne. Il dit l'homme, il doit procéder à quatre choses. Rabbi Levi Ben Chama nous dit, la première chose que l'homme doit faire quand il est confronté à une Avera, Yargiz Yetzer Hara, et Yetzer Hara. Il doit exciter son zèle du Yetzer Hatov sur le zèle du Yetzer Hara. Comment c'est exciter ça? Moi, j'ai jamais vu le Yetzer Hatov et le Yetzer Hara, j'arrive pas à les exciter, tout ça, je sais pas très bien comment faire. Alors voilà, la Gemara nous dit, c'est quoi? Il s'agit de la guerre contre le Yetzer Hara. Ça, c'est la guerre contre le Yetzer Hara. Comment il faut faire pour l'exciter? Tu vas te dire, qu'est-ce que ça va me rapporter cette mitzvah? Et qu'est-ce que ça va me rapporter cette Avera? Si jamais je fais cette mitzvah, combien je vais être riche, combien je vais être heureux, puisqu'on a dit que la mitzvah, elle conduit au bien-être, et la Avera, elle conduit au mal-être. Donc l'homme, il va commencer à peser le pour et le contre. Il va exciter son Yetzera sur son Yetzera Tov, il va réussir à le neutraliser. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'étais à Marseille il y a quelques temps, il y a quelqu'un qui est malade là-bas, qui est Bezrat Hashem, il a aussi la réfoua chez les mains, Avram Ben Rivka Yiratson, qui sera zoché de la réfoua chez les mains. Il était malade. Et je suis allé une fois, un dimanche après-midi et tout ça, voilà, on avait besoin de moi et tout ça, on m'a dit venez, on va aller se détendre au parc Borély et tout ça, il y en a qui connaissent Marseille ici, il y a mon ami Chemla qui est là, tout ça. Je le connais, j'en connais, j'en ai localisé quelques-uns ici. Il y en a même un qui habite au Prado, c'est lui. La première fois que je vais à Marseille, je vais aller le rendre visite. Alors en tout cas, vous savez, ils m'ont dit, viens, on va aller au parc Borély, se reposer, tout ça. Moi, j'ai entendu qu'il y en avait un qui était malade, c'est Avram en question. Il a dit, moi, je vais aller faire un saut chez lui, je vais voir ce qui se passe là-bas. Je suis parti. Il était cloué au lit, il a eu un accident de scooter, le pauvre. Et il a commencé à faire tchouva, il a commencé à se mobiliser depuis quelques temps. Et là, il a eu cette chose-là. On a parlé pendant 2 heures. Rabotaï, j'ai vu le visage éclairé et illuminé de cette personne. Moi, c'est pas pour me vanter que je le dis, j'en ai rien à faire. Moi, je vous le dis parce que peut-être ça pourra vous aider à faire une fois ce bliko cholim. Moi, je suis pas là pour vous exposer ce que je fais ou ce que je fais pas. Le problème, c'est pas moi ce soir. Le problème, c'est nous tous, c'est qu'on puisse avancer. J'ai vu la lumière dans ce visage. J'ai vu cet homme, comment il était heureux. Comment il est revenu à la vie. Comment il a eu envie de se lever. Comment il a eu la volonté pour continuer à prier, à se renforcer dans la Emouna, dans le Bitachon. Et j'ai vu comment Akadosh Baruch Hu, il m'a éclairé. De la lumière de la Torah, des choses que j'ai compris, que j'aurais jamais pu comprendre dans ma vie. Il faut des années. Mais Hachem, quand tu vois que tu t'occupes des autres, il s'occupe de toi. Il te fait comprendre des choses pratiques, des choses que tu apprends dans les théories. Tu vois la pratique, tu vois la personne, elle est éprouvée. Toi, tu as appris toutes les choses et tout ça. Vous savez, il y a beaucoup de gens, ils ont beaucoup de choses dans la tête, ils connaissent toutes les théories de la Torah et tout ça. Mais toute la vie de la Torah, c'est quoi? C'est de faire en sorte de passer de l'intellect au cœur. Celui qui arrive à faire la connexion entre l'intellect et le cœur, c'est le patron dans la Torah. Tu sauras aujourd'hui, tu ramèneras les choses à ton cœur. La personne qui arrive à ramener les choses à son cœur, comment c'est l'expérience de la vie qui peut t'amener à ça. J'étais avec lui, j'ai passé ces heures-là, je m'en rappellerai toute ma vie. Voilà, j'aurais pu partir là-bas. J'aurais pu me détendre. Est-ce que j'aurais été heureux comme ça? J'aurais pas été heureux. Qu'est-ce que ça a apporté de partir là-bas au parc Borély à voir quelques pans qui font les beaux? Et de notre côté, de venir et de soutenir quelqu'un qui est dans la torpeur et dans l'obscurité, de le sortir de ce trou et de l'aider. J'ai dit, quand l'homme il fait ce calcul-là, alors le Tseratov, il prend le dessus, il peut exterminer. Si jamais ça suffit, c'est bien. Sinon, il y a Asok Batora. C'est quoi Asok Batora? Tu vas œuvrer dans la Torah. On va expliquer dans un second temps qu'est-ce que ça veut dire Asok Batora, parce qu'il y a une différence entre l'Imoud Torah et Osek Batora. Si jamais tu étudies la Torah et que ça passe, très bien. Si jamais ça passe pas, tu vas faire le Kiryat Shema. Le Shema Israël. Le schéma Israël, Moray Barbotay, c'est la profession de foi d'Israël. C'est la Emouna et le Bitachon, que Akadosh Baruch Hu, il est unique, qu'il a créé le monde et que tout dépend de lui. L'homme qui est en train de faire une Avera, c'est qu'il s'est déconnecté de la Metsiot, que Akadosh Baruch Hu, c'est le Melech HaOlam. Si jamais toi, tu es capable de manquer à l'obligation que le roi il t'a donnée, c'est que tu considères que tu n'as pas le roi dans ce monde. Tu considères que c'est toi le roi de toi-même. Pourquoi? Parce que si jamais tu avais le roi en face de toi, tu pourrais pas, c'est un crime de lèse-majesté, c'est passible de mort. Tu pourrais pas faire la chose. Mais tu vas faire le Kiryat Shema. Tu vas proclamer l'unicité d'Hachem dans le monde. À ce moment-là, peut-être que tu vas te réveiller. Si jamais tu arrives à te réveiller avec ce Kiryat Shema, très bien. Si tu n'arrives pas à te réveiller avec ce Kiryat Shema, qu'est-ce que tu fais? Tu penses au jour de ta mort. Yaske Kiryat Shema Mitato. Il va penser au jour de sa mort, la personne. Qu'est-ce qui va se passer? Il va voir comment il va être seul ce jour-là, que personne ne pourra lui répondre. Que là, à ce moment-là, il n'y aura pas, comme dans ce monde-là, quand quelqu'un est fatigué ou il est dans une situation difficile, il appelle ses amis, à la rescousse, ils viennent, ils l'aident. Là-bas, t'es profondément là-bas, personne ne peut venir te chercher. Personne ne pourra t'aider. Et ici, jamais tu fais cette avéra, on a dit que c'était le samavet, c'est l'exercice de mort. Donc tu te charges d'énergies négatives qui seront retenues contre toi dans le monde de la vérité. Et c'est la raison pour laquelle l'homme qui va penser à ça, il n'a plus envie de fouetter. Ça le refroidit. Donc ça c'est les trois choses. Le Rav Elul Yopian nous dit ça c'est le manuel pour lutter contre le Yetzera. Celui qui a ce manuel là, il pourra réussir. Pourtant on voit beaucoup de gens qui ont le manuel et qui n'arrivent pas. C'est quelque chose de difficile à savoir. Qu'est-ce qu'on appelle Essek HaTorah, nous dit le Rav Elul Yopian, parce que dans les quatre choses, le Essek HaTorah c'est la chose qui a l'air d'avoir un poids prédominant. Essek HaTorah c'est pas comme le Limud Torah que quelqu'un il vient, il étudie quelque chose avec sa tête et d'un autre côté il se comporte en inadéquation avec ce qu'il fait. Et c'est qu'à Torah, hein, ça veut dire que tu fais de ta vie la Torah. Et Rabotai, je n'ai pas dit aux gens maintenant, je ne suis pas venu vous recruter pour la yeshiva, on va faire un charter et tout ça, on y va, si vous voulez venir, soyez les bienvenus. Maintenant qu'il y a des petits moments sabbatiques pour chacun, vous venez vous renforcer avec moi. Moi je vous héberge à la maison à Bnei Brak, vous venez, tout ça, ma femme elle s'occupe des femmes, moi je m'occupe des hommes, on fait une yeshiva ensemble, on va s'éclater, ça va être extraordinaire, il n'y a pas de problème. Moi je ne suis pas venu vous dire ça, non. Je suis venu vous dire que Essek HaTorah, on peut le faire même dans la vie de tous les jours avec le travail. Vous pouvez sanctifier le... Essek HaTorah, ça veut dire, il y a deux gens qui sont dans l'épicerie. Il y a le patron de l'épicerie, il fait attention qu'il y a les meilleurs fruits, qu'il y a les meilleurs personnels, qu'il y a les meilleurs gens. Et il y a l'employé. L'employé, c'est quoi? Celui qui fait le minimum. Lui, il fait son travail, vite fait, il ne fait pas attention s'il y avait des bonnes marchandises ou pas. Il n'en a rien à faire, lui, il fait ses heures. La différence entre Essek HaTorah et Limud Torah, le Limud Torah, c'est le gars qui vient, il étudie une heure de Torah, et le Ramban nous dit tout celui qui étudie une heure de Torah et qui se lève sans avoir pris sur lui d'être meilleur, si jamais ça ne l'a pas rendu meilleur, et bien il faut qu'il sache qu'il rendra des comptes sur cette heure-là qu'il a profité, qu'il s'est délecté de la lumière de la Torah. La Torah, tu dois l'étudier dans le but de faire en sorte d'être meilleur en sortant. Si jamais tu n'as pas été meilleur, alors ta Torah ne t'a pas traversé. Toi, tu as traversé la Torah, mais la Torah ne t'a pas traversé. Et c'est qu'à Torah, Rabotai, c'est Torah Tomanuto. La Torah, c'est la vie de la personne. Les gens, ils le voient, et ils disent, ah, vous avez vu ça, il y a un Sefer Torah qui vient de marcher là. C'est qui? Ah, c'est lui. C'est le gars, il est devenu un Sefer Torah. Les gens, ils le voient, il va au travail, il est honnête, il est noble, il est intègre. Il va après, il court pour aller à la prière, les gens, ils le voient, ils disent, c'est extraordinaire. C'est le fils d'Hachem, Rabotai. Le fils de Boré Olam, le fils du Tout-Puissant. Quel mérite il a, celui-là? Il est dans le travail, il sanctifie le nom de Dieu. Vous croyez, on a tous notre destin, Rabotai. Il n'y a pas tout le monde qui doit aller à la yeshiva, les autres, ceux qui sont dans le travail, ils ont un rôle. Ils doivent sanctifier le nom de Dieu, même dans le travail. Ils doivent montrer comment on est du peuple d'Israël. On fait partie de ce saint peuple. On doit montrer aux gens, à toutes les nations, à tous les peuples, comment nous sommes intègres, comment nous sommes humbles, comment nous sommes respectueux de la tradition, comment nous sommes respectueux de notre prochain, comment on soutient les gens qui sont dans le besoin, toutes les choses. Et on doit faire en même temps, et c'est qu'à Torah, ça veut dire que toute la vie, ma tête, elle est reliée à Hachem. Rabotai, Abraham, Yitzhak et Yaakov, nos patriarches, c'était des bergers. Toute la journée, c'était des bergers, ils gardaient des troupeaux. Pourtant, c'était les plus grands maîtres de la Torah de tous les temps. C'était des travailleurs. Leur tête, elle était où? Est-ce que tu crois qu'elle était en train de savoir combien de bergers, combien de troupeaux il y avait, combien il fallait le tondre, à quel millimètre? Non. avec la cible à Kedeker et tout ça. Il n'y avait pas ça. Rabotai, ces gens, ils avaient la tête toute la journée reliée à la Torah. Toute la journée, ils pensaient à Hachem. Vous pouvez être au travail. Mais si jamais votre travail, il fait en sorte que vous puissiez libérer du temps pour pouvoir étudier la Torah, que vous allez avoir des vacances, vous allez venir étudier un peu en yeshiva, étudier quelques heures, venir avec le rafima, étudier un peu après votre temps de travail, vous allez venir étudier une heure le soir. Votre travail, dit le Rambam, c'est considéré comme de la Torah. C'est marqué, tu méditeras les paroles de la Torah jour et nuit. Alors quoi, le gars qui dort, comment il fait pour pouvoir accomplir cette chose-là? Si tu dors pour prendre des forces pour servir Hachem, et bien les heures où tu as dormi, on te les comptera comme si tu avais servi Hachem et comme si tu avais étudié la Torah. De la même façon, si toi tu travailles pour faire en sorte de soutenir la Torah, les yeshivot, tu fais en sorte de travailler pour pouvoir libérer de ton temps, pour pouvoir éduquer tes enfants dans la Torah, dans les mitzvot, pour pouvoir faire en sorte que quand tu as du temps, tu vas venir le donner à Kadosh Baruch Hu en étudiant la Torah et te délecter de sa lumière. Hachem compte ce Essek à Torah là, que tu as fait Torah, Torah, Manuto, ta Torah, c'est ta vie, il le compte comme si tu avais fait que de la Torah dans ta vie. Ne croyez pas qu'à la fin on va vous demander des comptes, on va vous dire ah, toi tu as travaillé tout ça, c'est pas vrai. Celui qui a travaillé, mais que toute sa vie, il avait Akadosh Baruch Hu au centre de ses préoccupations, il voyait, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de moi à tel ou tel moment. Je vois et je vis en fonction de la volonté d'Hachem. Je place ma volonté en adéquation avec la volonté d'Hachem. Je place Hachem au centre de l'image. Hachem est au centre de ma vie. Je vois qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de moi. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de moi que je libère une heure, deux heures? Il y a beaucoup d'heures dans la semaine. Combien je suis prêt à accorder à la Torah Kedosha? Si l'homme, il fait tout ce travail-là dans ce but, Rabotai, il arrive dans le monde futur, il est au même niveau que les grandes tzadikim de la génération. Pourquoi? On te demande de faire les choses en fonction de ce que tu es capable de faire. Hachem, il est quel adéot? C'est le dieu des pensées. Ils sont le cœur et les reins de l'homme. Il sait exactement ce que l'homme il est capable de faire. Hachem te juge en fonction de ton niveau. Hachem te juge en fonction des fautes que tu as. Akadosh Baruch Hu, il ne va jamais te reprocher de ne pas avoir fait quelque chose que tu n'étais pas capable de faire. Si toi, tu étais capable d'étudier une heure par jour, deux heures par jour, trois heures par jour, 3 heures par semaine, 5 heures par semaine, le Shabbat, les fêtes, tu étudies, tout ce que tu peux, tu le fais, Hachem, il va te porter en triomphe dans le monde de la vérité. Ça s'appelle le Essek HaTorah, Rabotai. Celui qui a le Essek HaTorah, c'est le patron. C'est le patron parce qu'il fait de la vie sa Torah. On vous a dit, ce Yetzirah, il est avec toi dans le lit. Vous voyez parfois le matin, vous n'arrivez pas à vous lever. Qui c'est qui vous retient là-bas, comme un ours? Il vient se poser sur vous comme le Loir Atlantique, parce qu'ici on est en Outre-Manche et tout ça. Le Loir, il vient là, il s'allonge sur toi, ce Yitzhara. T'as l'impression que t'es en train de soulever 2 tonnes, 3 tonnes, 4 tonnes. Là, 7 tonnes. N'est-ce pas? T'es en train de soulever beaucoup de choses et tout ça. C'est très dur pour toi. C'est quelque chose de compliqué. T'arrives pas à te lever de ton lit. Jason, écoute ce passage, il est clé. Parce que le Rafima, il m'a touché un mot tout à l'heure. Bon, on parlera après. Si demain matin il ne se lève pas, vous lui faites réécouter ce passage-là. Ce sera sur internet le cours pour ceux qui veulent le réécouter. Donc, ce que je vous disais, donc le gars il sent qu'il a le lion qui est sur lui là. C'est difficile pour lui de se réveiller. C'est difficile pour lui de se lever tout ça. Ah là là, le Yitzhara il est venu. Ah, l'homme il a réussi à se lever. Le Yitzhara il va se lever aussi avec lui. Ne crois pas qu'il va. Si jamais il était resté au lit, il serait resté avec lui. Maintenant qu'il s'est levé, il s'est levé. Il va venir avec lui à la prière. Il va essayer de lui voler les brachot. Pendant que le gars il est en train de faire sa bracha, il parle avec Hachem et tout ça. Il dit, ah ouais, la parité euro-dollar, là, par ici, par là. Il dit, qu'est-ce que je dois faire après? Voilà, la facture d'Internet, la facture d'EDF et tout ça. Le gars, il n'a jamais le temps de penser, parce qu'il travaille toute la journée. Dès qu'il va parler avec Hachem, ah, ça y est, c'est les pensées qui vont venir là. Allez, viens le Yitzhara, il va commencer à l'attaquer. Après, l'homme, il va les manger, les pensées. Est-ce que j'ai des bonnes pensées? J'ai fait la bracha avec Kavana ou pas? Est-ce que j'ai mangé pour faire la bracha? J'ai fait la bracha pour manger? Le gars, il se questionne, il se demande, oui, non, oui, il ne sait pas. Après, il va commencer à sortir dans la rue. Alors, les jantes demoiselles et tout ça, mais oui, il faut bien parler d'elles. C'est marqué qu'il y a une mitzvah dans la Torah de Shmirat Enayim, vous savez, de garder, de faire attention à ses yeux. Que les yeux, puisqu'ils sont amenés à contempler la splendeur divine dans le monde de la vérité, il faut faire en sorte de les protéger des relations interdites et des regards qui sont un peu complices et illicites. Vous m'aurez compris, je ne vais pas faire douter ça, n'est-ce pas? L'homme, pour pouvoir se protéger, se préserver les yeux, il a besoin de la collaboration de sa chère et tendre amie, qui est la femme. Si jamais la femme vient dans une tenue provocatrice ou provocante, ou je ne sais pas très bien comment on dit, n'est-ce pas? Alors l'homme aura beaucoup plus de difficultés. Et c'est un lave de Horaïta qui est marqué dans la Torah. Difne Iver, Lotiten Mershol. Devant l'aveugle, tu ne placeras pas d'embûche. Si jamais la femme vient avec sa tenue de roi, sa tenue de fille du roi, ouais, vous avez compris ce que c'est, l'embûche et l'aveugle, je vois que j'ai pas besoin d'aller plus loin avec vous. Vous connaissez. Si jamais la femme a une tenue respectable, la tenue de la fille du roi, c'est la fille du roi, Rabotai. Aujourd'hui, je vois des gens qui viennent en Bermuda. Nous sommes des Batmélères. vous, vous êtes des bâtiments, vous êtes les filles du roi. Vous savez ce que c'est les filles du roi? La fille du roi, elle doit venir avec une robe de soirée extraordinaire. Quand tu viens dans un mariage et tu vois la famille royale, vous vous connaissez Elisabeth, elle est par là. Elle aurait dû venir normalement ce soir, j'ai oublié de l'inviter. Parce qu'elle doit dormir de bonne heure aujourd'hui en ce moment. Alors, en tout cas, je savais qu'il y avait ces chevaux là-bas. J'ai failli ramener des chevaux pour pouvoir revenir avec eux, mais mon frère, il m'a amené avec là deux chevaux finalement. Alors, en tout cas, pour revenir à ça, je sais pas, je vous raconte quelques blagues pour vous réveiller parfois, parce que on m'a dit que c'était une méthode qui avait fait ses preuves. Ce que je vous disais, c'est que la fille de roi, quand elle vient, elle doit venir avec des habits qui sont des habits de la fille du roi. Tu vois, quelqu'un qui vient dans une réception royale, elle va pas venir en Bermuda. C'est qui vient? C'est la fille du jardinier. Le jardinier, il vient avec son Bermuda. Aujourd'hui, on voit, c'est la mode des Bermudas pour les femmes. Elle vient avec le Bermuda et tout ça. Une femme qui vient avec le Bermuda, l'homme il a la mitzvah de Shmirat Hanayim, il doit faire attention à ses yeux, mais c'est très difficile. Plus la femme elle est respectable, elle est honorable, et sachez que la tzniut, c'est la meilleure façon de pouvoir honorer, de respecter la femme, c'est de faire en sorte de cacher les parties que la Torah a demandé de cacher pour qu'on respecte sa femme, non pas pour l'extériorité, mais pour son intériorité. La femme qui se dévoile, on sait que quelqu'un quand il a le Rav Pinkus, il explique ce machin extraordinaire, il dit quelqu'un quand il a beaucoup de billets, oui. Il a les billets, il va pas aller, il dit allez les gars, on y va et tout ça. Il a Mohamed, il va arriver avec ça à deux chevaux, il va lui voler le truc, il va partir. Si jamais tu fais ça, n'est-ce pas? Si jamais tu as des billets, qu'est-ce que tu fais? Tu les mets en lieu sûr, tu les mets dans ton portefeuille, tu les mets dans le portefeuille, tu l'enfouis bien au fond de ta veste, et tu le mets dans une mallette et tout ça, tu le scelles bien. Et de la même façon, si jamais pour la femme, les parties cachées, elles sont précieuses, et que la femme elle est chère, alors elle doit les cacher, puisqu'on voit que ce qui est cher, on le cache. Mais ce qui n'est pas cher, on le dévoile. Et on voit aujourd'hui, malheureusement, on voit les pubs de Dior et tout ça, la femme, bienvenue chez moi et tout ça. J'ai vu les pubs, et oui, malheureusement, vous croyez que quoi, on est infaillible, parfois on essaye d'enlever nos lunettes dans la rue, mais parfois on ne s'attend pas, on se prend un attentat, attentat d'une femme de Dior là sur la rocade ouest et tout ça, elle était là, elle a fait comme ça, l'autre il vend une pomme, moi je me dis, je vais voir les pommes et tout ça, pour voir quelle pomme je vais prendre pour Rochassana, et je vois une femme en train de croquer la pomme à moitié nue et tout ça. Quelle est la relation entre la pomme et la femme? Vous m'expliquerez, je n'ai pas très bien compris. Mais aujourd'hui, malheureusement, la femme est devenue un objet de convoitise. On a parlé de la libération de la femme depuis 1968. C'est pas la libération, c'est l'asservissement comme un objet de convoitise. C'est pas ça. Le respect de la femme, au contraire, la Torah nous demande de respecter la femme pour son intériorité. Mensonge que la grâce, vanité que la beauté, seule la femme qui crée l'éternel est digne de louange. Tout ça, c'est éphémère. La seule chose, c'est les valeurs intérieures. Sinon, il y aurait des inégalités. La femme qui est née belle, alors elle est digne de respect. La femme qui est née un peu moins gracieuse, elle n'est pas digne de respect. Non. Quelqu'un qui a des vertus extraordinaires, c'est pour ça qu'on doit le respecter, c'est pour ça qu'on doit l'honorer. Alors c'est la raison pour laquelle on a dit que l'homme, il est dans la rue. Si jamais il fait attention à ses yeux, alors il sera zoché de voir Akadosh Baruch Hu de plus près. La femme, elle a une grande responsabilité. Si jamais les femmes, les Batisraël, Gdoshot, Vetehorot, elles font attention à comment elles s'habillent, déjà elles seront plus respectables, elles seront plus honorées et plus respectées par leur mari. De même pour les règles de pureté familiale. Les règles de pureté familiale, Rabotai, c'est la chose qui permet à l'homme et à la femme de ne pas se lasser et de ne pas faire comme la majeure partie de tous les habitants du monde qui sont des polygames, pour ne pas dire plus. Ils vont faire des relations avec toutes sortes de personnes et d'animaux parfois aussi. Oui, la zoophilie elle est très répandue dans certains pays. En tout cas, et d'ailleurs dans les pays, bref, en tout cas il y a beaucoup de choses qui sont très graves, sachez-le. Pourquoi? À cause de la lassitude qu'il y a. Les règles de pureté familiale permettent aux gens d'instaurer un écart, un retrait, une prise de distance pendant quelques jours pour faire en sorte que quand ils se retrouvent, ils vont se réunir comme si c'était le premier jour, c'était la nuit de noces. Rabbi Akiva, il dit chaque fois que je retrouvais ma femme, Rachel, à Tzadeket, après la période du Mikvé, c'est comme si jamais je me remariais aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'après ce moment où tu t'es séparé, tu ne vas pas avoir la lassitude et tu ne vas pas avoir envie d'aller. La Torah, toute la Torah, c'est une Torah de vie, Rabotai. Tout ce qu'elle a légiféré, tout ce qu'elle a fait, c'est dans notre intérêt. Il faut le savoir. Donc je vous ai dit, le Yetzara, il se lève avec l'homme. Il va avec lui dans la rue, il lui montre des pubs, il lui montre des choses. L'homme, il doit se renforcer à chaque instant. Il doit le rechercher, le combattre. Il doit combattre avec toutes ses forces. Il vient à la synagogue avec toi. Il vient chez toi, à la maison. Il vient le Shabbat. Tu vois le Shabbat, t'es tranquillement. Toute la semaine, tu t'es pas disputé. Veille de Shabbat. La guerre nucléaire va exploser, tout ça, c'est la Géorgie et la Russie se sont déclarés le conflit. Le Yetzara, il vient, l'homme et la femme, ils se font une explosion, bien comme il faut, avec ses parents, avec la famille. Et voilà qu'on va passer un très bon Shabbat, on est très content. Le Yetzara est encore là. Dans les mariages, Rabotai, vous savez qu'il n'y a pas un mariage sans qu'il y ait une esclandre. Le Yetzara s'invite aussi, il n'a pas reçu son coupon d'invitation, mais il est présent. Rabotai, le Yetzara, c'est le premier qui te dit Mazal Tov dans ce monde. Quand tu viens et que tu sors de la matrice de ta mère, c'est le premier qui t'attend à la sortie pour te dire Mazal Tov. C'est le premier. Comme Pinocchio, il avait le grand frère, il l'a amené dans les mauvais chemins, de la même façon. Et c'est le dernier que tu vois dans ce monde. Le dernier que tu vois dans ce monde, c'est le Yetzara. Rabotai, on dit qu'avant de mourir, il faut lire le Mavar Yavok. C'est un livre qui explique à l'homme comment se renforcer avant de rendre son âme à Hachem. Et vous savez pourquoi il faut lire ce livre? Parce que le Yetzer Hara, juste avant que l'homme y meure, comme il a vu qu'il a pris beaucoup de mérite, beaucoup de bonnes choses et tout ça, oui, qu'est-ce qu'il fait avec lui? Il vient et il va lui faire regretter ses mitzvot. Il lui dit, je suis prêt à te rendre la vie si tu regrettes tes mitzvot. Et vous savez, de la même façon que quelqu'un qui regrette les averot, c'est la tchouva, il efface ses averot. Quelqu'un qui regrette ses averot, il les efface complètement et il repart à zéro. Ça veut dire qu'on a tous le mérite ici de regretter nos averot et de ne s'engager à ne plus les refaire, et on repart avec un passif blanc et on peut s'attacher à Hachem et être heureux dans notre vie. De la même façon, celui qui regrette les mitzvot, si jamais tu regrettes les mitzvot, mon ami, sache, c'est fini pour toi. Toutes les mitzvot que tu as fait, on va te les effacer. Donc le Yetzer Hara, juste avant de que l'homme y meure, il lui dit, écoute mon copain, je suis prêt à faire un deal avec toi. On a dit que c'était un menteur et que c'était un roublard. Je ne peux pas dire le mot parce que je suis dans un lieu saint. Il lui dit, regrette tes mitzvot et je t'assure que je vais te donner la vie. Et on sait que c'est un menteur. Donc non seulement il fait regretter la vie, et en plus il le tue. Donc l'homme, il doit lire juste avant la mort, il doit se renforcer. Pourquoi on dit le schéma Israël? Pourquoi on dit Hachem ou Elohim? Pourquoi on dit les Tachanonim? Pourquoi on dit Hachem Melech et tout ça? Quelqu'un qui est en train de faire le schéma Israël. Ce qu'on vous a dit, celui qui pense au schéma Israël, il ne peut plus fauter, il va se renforcer dans la foi et dans l'aïmouna, qu'il y a une vie éternelle, et il préfère quitter ce monde en ayant tous ses mérites plutôt que de rester dans ce monde et d'anéantir tous ses mérites. Donc c'est ce qu'il faut que vous sachiez. Le Yetzer Hara, c'est l'ennemi le plus fidèle de l'homme. C'est celui qui ne te libérera jamais. Il est avec toi depuis le début de ta vie jusqu'à la fin de ta vie. Il ne te quittera pas. Tu peux te disputer avec n'importe qui, même avec tes amis les plus proches et les plus fidèles. Le Yetzer Hara, il ne se disputera jamais avec toi. Toute ta vie, il sera à tes côtés. Le Chafetz Chaim dit qu'à partir du moment où tu connais cet ennemi, Akadosh Baruch Hu, ça suffit pour faire en sorte que si jamais tu t'engages à lutter contre lui de façon sincère, Akadosh Baruch Hu, il le placera dans tes mains. Et cette guerre, on vous a dit, elle est fonction des efforts, de nos efforts à chacun. Vous savez, je sais que chacun d'entre vous, vous avez des difficultés. Chacun d'entre nous, on a des difficultés. La personne, si jamais elle a des difficultés dans le Shabbat et qu'elle fait le Shabbat. Tout à l'heure, je parlais avec quelques-uns pour savoir si jamais il faut venir à la synagogue le Shabbat en voiture ou en métro, ou il vaut mieux rester chez soi. Celui qui arrive à rester chez lui, faire la prière Béhari tout seul, alors qu'il a envie d'aller voir ses amis, alors qu'il a envie d'être porté par la ferveur et par le flot de la tfila, et que malgré tout il se contraint à rester chez lui parce qu'il ne peut pas aller à pied, c'est trop loin pour lui, n'est-ce pas? Il préfère rester chez lui, il dit combien il est grand son mérite. Akadosh Baruch Hu, il voit. Le Yetzer Hara, il n'est pas le même pour chacun. Le Yetzer Hara, plus l'homme grandit, plus le Yetzer Hara est grand. Quand la Gadol, Mihavero, Yetzer Hara, Gadol, Mimeno. Tout celui qui est plus grand que son ami, il a un plus grand Yetzer Hara que son ami. Donc Akadosh Baruch Hu, il sait exactement que cette guerre-là, elle se situe à un point dans lequel l'homme, il est capable de combattre. Plus il va combattre l'homme, et plus Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte de le mettre dans sa main. Mais plus tu cèdes du terrain à cet ennemi, et plus cet ennemi, il est redoutable. Le vrai bonheur de la vie, Moray Verabotay, c'est la Dvekut Bashem. La Dvekut Bashem, c'est quand on s'attache à Hachem. Celui qui s'attache à Hachem, c'est le plus heureux du monde. Je vous savais, une fois, j'ai étudié à la Yeshiva. Je ne raconte pas très souvent cette histoire parce que c'est une histoire un peu personnelle, mais je préfère vous la raconter parce que peut-être que ça va vous donner l'envie de la vivre. Une fois, j'étais à la Yeshiva et j'avais fini mes 4 années d'études. Je faisais le droit international à l'époque et tout ça. J'ai fini tout ça. Je priais et je pleurais à chaque fois parce que tous les étés, j'allais à la Yeshiva étudier. Et après, je supplie Hachem qui me donne le mérite de m'asseoir dans la Yeshiva pour étudier la Torah. Donc toute l'année, je sortais de l'université en courant, j'allais au Beit HaMidrash, à la maison d'études pour étudier, parce que c'était ce qui me faisait vivre, et ce qui me faisait tenir face au Yetzer Hara et face aux gens de l'université, tout ça. Mais bon, j'avais quand même des amis de façon assez limitée. Moi, mes amis, c'était la brigade des, comment on les appelle ceux-là, les Rasta Rocket. Toutes les femmes qui étaient de couleur, elles étaient mes amies, parce que je sais pas, je leur fournissais les cours et tout ça, alors elles étaient amies avec moi, donc comme ça, il n'y avait pas trop de problèmes et tout ça. C'était très gentil, mais bon, il n'y avait pas trop de contact physique, si vous voyez ce que je veux dire. Ça ne commençait pas, comme on dit. Alors, bon, il y avait ces gens-là, ils étaient avec moi. Mais bon, pour se battre contre les Yetzer Hara, il faut bien qu'on puisse prendre des forces. Donc j'allais au Beit HaMidrash. Après, je suis venu l'été à la Yeshiva. Et j'ai commencé à étudier. Et j'ai étudié pour la Rifa Shelema de mon père. Vous savez, j'ai quitté les études et tout ça, et j'ai consacré ma vie à la Torah pour mon père. Parce que je sais qu'il était fatigué, il était dans une situation difficile. J'ai dit, moi je vais consacrer ma vie à la Torah pour qu'Akadosh Baruch Hu lui prolonge la vie. Parce que c'est marqué que tout celui qui a la Torah et les mitzvot, c'est un bouclier pour lui. Alors moi j'ai dit, je vais être le bouclier de mon père à la vache l'homme. Et comme ça, Akadosh Baruch Hu, il m'a sauvé la vie. Par cette épreuve que j'ai eue, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que je puisse sauver ma vie. Et que je suis venu dans la Torah, et grâce à ça, aujourd'hui je suis vivant, et grâce à ça, je suis avec lui. J'ai commencé à étudier. Les docteurs ont dit qu'il devait vivre 6 mois. Il a vécu 6 ans. Et chaque fois que j'allais avec lui, parce que j'allais avec lui, j'étudiais un livre, ce livre d'ailleurs, qui s'appelle « Comment s'attacher à Hachem » du Rav Yaakov Hades, qui est extraordinaire, si jamais vous le trouvez sur le commerce. Quand vous allez en Israël, à Galia, dans la librairie juive de francophone de Jérusalem, de Mea Shearim, vous allez le trouver, le livre. J'étudiais avec lui devant la porte. Chaque fois que j'allais voir les médecins, ils me disaient, monsieur, on ne sait pas comment vous faites pour retenir votre père et tout ça, et comment il est encore en vie et tout ça, parce que les taux et tout ça, ils ne sont pas normaux. Il dit, donc je ne sais pas ce que vous faites, mais continuez à faire ce que vous faites, parce qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe. Nous, en tout cas, techniquement, on n'a aucune solution. Je dis, nous, techniquement, on en a. C'est Akadash Baruch Hu. Le limoud Torah, c'est ceux qui protègent. Et il a protégé comme ça pendant des années et des années. Akadash Baruch Hu, il a été Merachem et il a protégé. Je vous dis, la Torah, c'est ce qui nous fait vivre. La Torah, c'est la Dvekut. Alors moi, je suis parti à la Yeshiva pour mon père. J'ai commencé à étudier. J'ai dit, maintenant, à partir d'aujourd'hui, j'essaierai en tout cas de rentrer le premier dans la maison d'études et de sortir le dernier. Jusqu'à ce que j'ai plus de force, jusqu'à ce que je sois épuisé. Et une fois, j'ai étudié tard, dans la nuit. J'ai étudié un bon parti de la nuit. Quelques heures, enfin en tout cas ça faisait plusieurs heures de façon ininterrompue, parce que quand tu étudies de façon ininterrompue, comme ce soir, là vous devez vous dire, oula, ça fait un peu difficile, là ça commence à être un peu difficile et tout, sachez que chaque seconde de plus que vous étudiez, c'est une puissance exponentielle qui est à la puissance infinie. C'est pas que vous avez étudié une minute de plus que ce que vous avez fait avant, c'est que vous avez étudié des puissances exponentielles, vous êtes en train de faire exploser votre compteur, sachant que chaque mot de la Torah, c'est marqué Talmud Torah Keneged Kulam, chaque mot de la Torah c'est 613 mitzvot. Chaque minute, moi je parle très vite donc je pense que c'est un peu plus, chaque minute on peut me dire 200 mots, n'est-ce pas? Donc comme ça dit le 200 mots. C'est-à-dire tu fais le calcul, on ne sait même plus, s'il y avait les plus grands comptables parmi vous là, les gens de la bourse et de ça, je ne sais pas si vous allez savoir calculer ce taux-là qu'on a fait ce soir. C'est un taux incroyable. Donc je suis venu, j'ai commencé à étudier. J'ai étudié une bonne partie, après tout le monde est parti. À un moment, j'ai senti comme ça, un sentiment incroyable qui m'a gagné. J'ai senti le sentiment de proximité avec Hachem. Rabota, quand on sent le souffle d'Hachem sur son visage, qu'on sent qu'on est répondu à nos prières, qu'on est répondu dans notre étude, qu'on a étudié Bémé Sirout Nefesh, qu'on est fatigué. Et on sent qu'Akadosh Baruch Hu, il est à nos côtés, ce moment, on ne pourra jamais l'oublier dans notre vie. Celui qui a vécu un moment comme ça, une fois dans sa vie, je suis venu, je me suis rapproché du Echal, de l'Arche Sainte, et des larmes ont commencé à couler de mon visage. J'ai commencé à pleurer pendant plusieurs minutes, et j'ai pris conscience de la chance que j'avais d'avoir été recueilli. J'aurais pu devenir un renard. J'aurais pu devenir un mahboul de diplomate, un mahboul de politique de l'ONU et tout ça. J'aurais pu faire des calembours et des lectures de carambar et des choses incroyables. Hachem, il a été Merachem, il m'a sauvé la vie. J'ai étudié la Torah, j'ai senti qu'Akadosh Baruch Hu, il me répondait, qu'il m'exauçait. Rabotai, ce sentiment-là, qui est dans le cœur d'une personne jusqu'à la fin de sa vie, il ne le quitte pas. Quand tu fais des averot, si jamais tu ne consommes pas les averot, sans arrêt, tu sens ce sentiment de manque. Mais ça, si jamais tu le fais... une fois dans ta vie, il dira Benou Yona, jamais tu l'oublieras. Et ça peut te permettre de traverser toutes les épreuves que tu as dans ta vie. Tu as les pires épreuves, tu as les pires choses, tu as les pires difficultés. Tu te rappelles que tu as été proche de l'Akadosh Baruch Hu, que tu as senti que tu étais exaucé, tu as senti que tu te rapprochais de lui. Cette chose-là, ça peut être atteint par n'importe qui d'entre nous. Notre Neshama, c'est Neshama Tehora Rabotai. Vous n'avez pas conscience de la Neshama Tehora que vous avez. Vous êtes des tzadikim. Vous êtes des saints Rabotai. Vous avez une Neshama qui est pure. Elle est pleine de lumière. Même si vous avez fait des averot, votre Neshama est intègre. C'est un joyau précieux, c'est un diamant extraordinaire. Il dit, prenez conscience de ça. Si vous avez cette conscience, vous ne pourrez jamais fauter. Pour terminer, il faut se demander si nous connaissons cette recette des quatre choses qu'il faut faire pour pouvoir contrer le Yetzer Hara. Comment c'est possible qu'il y a beaucoup de gens qui continuent à fauter et qui continuent à sombrer? Pour comprendre cette chose-là, ça c'est le Rabbi Eliyahu Lopian, un grand maître de la Torah qui pose cette question. On sait que Yaakov, quand il a fini... Il a commencé à se sauver d'Égypte et tout ça, ils sont partis. On sait qu'il a commencé à combattre contre l'ange de la mort. Vous connaissez cette histoire. Il a lutté contre lui toute la nuit. C'est marqué qu'une poussière, un nuée de poussière s'est élevé jusqu'au trône céleste d'Akadosh Baruch Hu. Il a lutté contre le Yetzer Hara, le Malach Hamavet et le Satan, qui est la même personne et la même entité. C'est rapporté dans la Gemara dans Baba Batra, à la page 111, que le Yetzer Hara, le Malach Hamavet, l'ange de la mort, et le Satan, c'est le même. Donc il a combattu contre lui, c'était le Sarosh El Esav, il a combattu avec lui toute la nuit. À un moment, le Sarosh El Esav, il a empoigné, et il lui a brisé le nerf sciatique, raison pour laquelle on n'a pas le droit de manger le nerf sciatique aujourd'hui. Pour ceux qui sont en chouchette parmi vous, s'il y a des gens qui font la shrita, je préfère vous le rappeler, ça fait pas de mal de réviser les halakhot. Alors il a commencé à combattre avec lui. Et là il s'est passé l'histoire la plus surprenante de toute la Torah, en tout cas moi de ce que je connais. Yaakov lui a dit, l'ange de la mort lui a dit, ça y est, tu m'as vaincu. Il dit, laisse-moi partir parce que je dois aller faire les chants dans le ciel. C'est venu mon tour de faire la garde. Pour Akadosh Baruch Hu, ils font des chants toute la nuit, il y a trois gardes. Et il y a des gens qui se relaient là-bas, des anges. Il a dit, c'est mon tour de venir faire des louanges à Hachem. Alors Yaakov lui a dit, je te laisserai pas partir d'ici jusqu'à ce que tu m'aies béni. Il lui a dit, très bien. Il dit, ton nom ne sera plus Yaakov, ton nom sera Israël. Il a dit, merci beaucoup, c'est une belle bénédiction. Il lui a dit, alors l'autre il a voulu partir, Jacob il lui a dit je te laisse pas partir moi non plus. Il lui dit quel est ton nom à toi? Alors l'autre il lui dit Lama Tisali Hachmi, pourquoi tu me demandes mon nom? Et l'autre il s'est évadé, il s'est éloigné, il est parti. On ne comprend rien à cette histoire. Imaginez, vous avez combattu toute la nuit, vous avez fait le crochet que je vous ai montré tout à l'heure, maintenant j'ai plus encore la forme olympique parce qu'après cette compétition là c'est difficile. Mais ceux qui veulent faire du judo, on va aller à la maison après, je peux faire parce que j'avais la ceinture noire avant. Je ne veux pas vous faire peur, mais c'est juste pour vous le dire. Alors il a fait, comme Yaakov, il a lutté avec celui-là, il a fait le combat. Il a fait un combat toute la nuit. À la fin de ce combat, donc tu as combattu avec quelqu'un dans la rue. À la fin de ce combat, tu lui dis, mon copain, tu peux me bénir? Merci beaucoup. Tu vas demander à celui qui est du coin là-bas, il t'a donné des trehafras. Maintenant tu vas lui demander, fais-moi des bénédictions. Ça veut dire pour rembourser les coups que tu as reçus. Bon. Après, encore plus surprenant, il lui demande... Je te laisserai pas partir avant que tu me dises ton nom. Enfin, il veut porter plainte contre lui ou quoi? Yaakov, il voulait porter plainte contre celui-là. Il avait envie d'aller à la... C'est pas possible. Il dit, qu'est-ce que tu lui demandes son nom? Et encore plus surprenant, Rabotai, qu'est-ce qui se passe à la fin? Il lui dit, pourquoi tu me demandes mon nom? Et Yaakov, il lui dit, Koltouf. Donc toi, tu t'es battu avec le gars. Tu lui demandes, quel est ton nom? Donc déjà, pourquoi t'as besoin de ça à fond? Après, l'autre, il te répond, pourquoi tu me demandes ton nom? Et tu lui dis, merci beaucoup. Il t'a pas répondu. Qu'est-ce que tu lui dis, merci beaucoup? C'est surréaliste, ce passage de la Torah. Rabotai, il y a deux explications. La première explication, c'est que Yaakov, on sait très bien qu'il ne voulait pas savoir quel était le nom pour l'appeler par son petit nom. Il ne voulait pas lui donner un diminutif au Yetzirara. Il voulait savoir quelle était sa façon d'agir, parce que le nom de la personne, c'est sa maout. En fonction de comment une personne s'appelle, tu vas savoir comment elle va réagir dans sa vie. Elle s'appelle Sarah, elle aura les midas de Sarah. Elle s'appelle Abraham, elle aura les midas d'Abraham. Elle s'appelle Yosef. Oui, s'il y en a de Yosef parmi vous, dans l'assemblée, comme mon frère Yosef Yitzhak, il aura les épreuves de Yosef. Les épreuves, c'est des épreuves difficiles. Vous connaissez l'épreuve de Yosef avec Poutifar, qu'il a eu à lutter. Tu vas voir les Yosef, ça n'y manque pas. Il a cette épreuve, il est beau et tout ça, il a le joli regard avec les yeux bleus et tout ça. Yosef, c'était le plus beau de l'époque, hein, il était très 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 beau, il a eu des grandes épreuves. Donc il a voulu savoir comment il s'appelait. Il dit, dis-moi comment tu t'appelles. Alors lui, il a répondu, la Matis Aliachmi, pourquoi tu me demandes mon nom? Ça veut dire quoi, pourquoi tu me demandes mon nom? Il a compris en fait la réponse. Il a dit, ne me demande pas mon nom. Il a dit, mon nom c'est l'illusion. Je ne suis qu'un dimion. Je suis là où ton imaginaire me fera exister. C'est marqué, Tov Marienaim et alors Nafesh. Il est plus beau le fantasme qui est montré à l'homme que l'accomplissement de ce fantasme. L'action que la personne elle fait, elle est beaucoup moins grande et beaucoup moins... Elle lui procure beaucoup moins de satisfaction et de plaisir que le fantasme qu'il avait. Le Yitzhara n'est qu'une illusion, Rabotai. Si tu chasses cette illusion, tu vois que finalement c'est du vent, ce n'est rien, il est insignifiant. Et c'est ce qu'il est venu lui dire à Yaakov. Il dit, Lama Tisali Hachmi, pourquoi tu me demandes mon nom? Il dit, je ne suis pas, mon nom est personne. J'ai pas de nom, je n'existe pas. Si tu me fais exister, j'existerai. Si tu ne me fais pas exister, je n'existerai pas. Première explication. Deuxième explication qui va encore plus avec ce que nous avons expliqué. Lama Tisali Hachmi, qu'est-ce qu'il lui a dit ce Yitzhara, ce roublard? Et Yaakov a compris. Lama Tisali Hachmi, pourquoi tu me demandes mon nom? Ne me demande surtout pas mon nom. Al Tisali Hachmi, ne me demande pas mon nom. Parce que si jamais tu me demandes mon nom, tu vas me découvrir. Et si tu vas me découvrir, tu vas réussir à faire ce pourquoi tu es venu dans le monde. On a dit, l'homme il est venu, Saneshama, il est venu pour mener la guerre contre le Yitzhara. Si jamais toi tu sors en guerre contre le Yitzhara, Akadosh Baruch Hu va le placer dans ta main. Donc qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, hé mon copain, ne me demande surtout pas mon nom, parce que si jamais tu me demandes mon nom, tu vas me découvrir. Si jamais tu commences à me découvrir, tu vas lutter. Et si tu luttes, Akadosh Baruch Hu va te placer dans ma main. Donc Rabotai, il est venu nous délivrer ici un enseignement extraordinaire, que la force du Yitzhara, c'est de se cacher. Si jamais vous, qui êtes là ce soir, vous avez décidé... Et vous êtes convaincu qu'il faut se battre contre lui et qu'il faut le rechercher. C'est quoi le rechercher? C'est rechercher qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de moi dans ce moment-là. Est-ce qu'Hachem il serait content si jamais il me voyait ici? Est-ce qu'Hachem il aurait été content de moi? Est-ce qu'Hachem il aurait été fier de moi? Voilà, moi qui suis le fils du roi, moi qui suis le fils de Melech Malcha Melachim Akadosh Baruch Hu, le fils du patron. Chacune de mes actions, elle peut sauver le monde. Chacune de mes actions, elle peut sauver la vie de quelqu'un qui est à l'autre bout de l'univers. Kol Yisrael Ariyim Zelazé. On est tous liés, nos neshamas, elles sont tous liées les unes aux autres. Rabotai, vous imaginez pas ce que vous pouvez faire. Avec une action, vous pouvez sauver quelqu'un qui est dans une situation difficile. Une femme qui est en train d'accoucher, qui est dans une situation précaire, qui a une situation difficile, elle est au bord du gouffre. Une petite action à vous, une mesure de tzniut, une mitzvah, une bracha bekavana. Il y a quelqu'un qui est en train de se faire tirer dessus à Jenin. Vous êtes en train de faire la Amida. Au moment où vous prosternez, Vous avez fait une bonne kavana, vous avez pensé à Kadosh Baruch Hu, vous avez pris de tout votre cœur. Vous avez parlé à votre créateur, vous êtes attaché à lui. Rabotai, à ce moment-là, il va se baisser pour ramasser quelque chose et une balle, elle va lui passer au-dessus de la tête. Rabotai, nos neshamot, elles sont tous unies. C'est le Zohar Kadosh qui dit ça. C'est la Torah Kadosha. Si vous avez l'aïmouna, vous devez savoir. Pourquoi l'homme, il s'investit pas, il s'engage pas parce qu'il pense que ça n'engage que lui. Rabotai, chacune de vos actions, elles peuvent ramener le Mashiach. Le Mashiach, il est aux portes. On sait qu'à la fin des temps, Mouraïbi Rabotai, à Kadosh Baruch Hu, il va pas regarder combien de pages de Gemara on a fini. Il va pas regarder combien de Chumash on a étudié. À Kadosh Baruch Hu, il va regarder la flèche. Est-ce que notre flèche, elle est vers le haut ou elle est vers le bas? Si jamais t'es un grand gagne de la Torah, mais ta flèche, elle est vers le bas, tu vas te faire esquinter. Mais si jamais toi, t'es un Baal Tshuva, et que tu as décidé de bien faire. Tu as dit à Kadosh Baruch Hu, à partir d'aujourd'hui, je prends sur moi de chercher le Yetzirah pour le battre, pour le combattre, et pour me rapprocher de toi, et pour être dans le flux de la lumière, et m'attacher à l'arbre de vie qui est la Torah. À Kadosh Baruch Hu, il sera fier de vous. Il sera fier de chacun d'entre vous. Pour terminer, je raconterai l'histoire de Rabbi Akiva pour honorer la mémoire de mon père. Vous savez, Rabbi Akiva, à la fin de sa vie, on a dit donc, l'essence de ce cours, c'est que vous pouvez tous être des sources de Kiddush Hashem, de sanctification du nom de Dieu. Que vous soyez femme, que vous soyez homme, que vous soyez enfant. Vous pouvez tous sanctifier le nom de Dieu. Rabotai, on est les ambassadeurs d'Hachem dans le monde. On est les seuls qui le représentons. Personne d'autre que nous-mêmes représentons Hachem. On a ce grand mérite. C'est un mérite extraordinaire. Les autres, ils n'ont pas ce mérite. Les autres, ils boivent des ballons de rouge, ils vont au PMU, ils vont à l'hippodrome, voir des chevaux qui courent, ils leur donnent des coups et tout ça. Rabotai, on a le spout d'être les ambassadeurs d'Hachem. Les gens qui nous voient passer dans la rue, ils disent « Voilà, celui-là, il fait la Torah, il fait les mitzvot, il est heureux, je veux lui ressembler, je veux m'attacher à lui. » Un jour, il y avait un chassid, c'était un grand ami Traham. Il voulait changer. Il savait que dans le monde, toutes les choses, elles avaient une explication. Alors, il était à la gare, et son talmid, il lui a demandé « Rabbi, quand vous voyez cette locomotive et ces trains-là, qu'est-ce que vous pensez ?» Il lui a dit « Je vois cette locomotive. Je vois que cette locomotive qui est bouillante, elle peut traîner 20 qui ne sont pas bouillants. » Une personne qui est bouillante, Rabotai. On est des bouillants, à partir d'aujourd'hui on est des bouillants, on est en campagne. C'est la campagne pour le monde meilleur, Rabotai. C'est la campagne pour approcher nos frères de la lumière de la Torah et des mitzvot, pour approcher la vie de nos frères de l'essentiel, pour approcher nos frères de la joie et du trésor qu'on a découvert tous ensemble. Un bouillant, il peut traîner 20 non-bouillants avec lui. C'est ça qu'on apprend de cette locomotive. Cette locomotive, elle est capable de drainer des choses extraordinaires. Après, il lui a dit, Rav, qu'est-ce que vous apprenez du vélo? Il lui a dit, du vélo, j'apprends que tant que je pédale, j'avance. Dès que j'arrête de pédaler, je tombe. Si jamais je pédale et que c'est difficile, je monte. Si jamais je pédale et que c'est facile, je descends. C'est la vie de l'homme, Rabotai. Tant que je fais des efforts pour me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, je fais mes sirut nefesh, je m'engage, je m'investis. Il dit alors j'avance vers Akadosh Baruch Hu et je me rapproche de lui. Si jamais j'arrête de pédaler, mais Sarah, il me flingue, je tombe. Si jamais je vois que c'est difficile, c'est dur de me lever le matin, c'est dur de faire la Torah, c'est dur de faire les mitzvot, c'est dur de manger kasher, de ne plus aller au restaurant, de ne plus faire des bêtises avec les femmes, de s'habiller de tsniout. C'est des choses difficiles, il fait chaud, il fait froid, c'est dur, tout est dur. Il dit, plus je vois que c'est dur, plus je suis en train de monter. Plus je vois que c'est descend, Habibi. Plus je vois que je descends, Habibi, ça veut dire que je suis en train de crouler, de descendre au plus profond de tout. Rabbi Akiva était la source de ce qui douche Hachem. On doit être le sanctification du nom de Dieu. On sait que Rabbi Akiva, à la fin de sa vie, il est venu. Les Romains l'ont capturé. Les Romains, vous savez, ils n'étaient pas très gentils, les Romains, à l'époque. Ils ont dit que tout celui qui étudie la Torah, on le prend, on le tue. Et celui qui enseigne la Torah Berabim, il aura une mort atroce. On le prend sur la place publique, on lui fait le bûcher, on le tue, on le brûle sur la place publique. Il a rencontré le gouverneur romain, il avait le Sefer Torah sous le bras. Et le gouverneur romain lui dit, mais tu es complètement maboule. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train d'enseigner la Torah? Non seulement tu n'étudies pas la Torah cachée, mais en plus tu l'enseignes. Tu es fou. Il a dit, oui, j'enseigne la Torah. Il dit, je vais te raconter une fable de La Fontaine. C'était les fables de La Fontaine des temps anciens, parce que Rabbi Akiva, il était là très très longtemps. La Fontaine, ça veut dire l'eau. On a dit que l'eau, c'était la Torah, donc c'est pour ça que c'est un peu... Tout est lié. N'est-ce pas? Alors il lui a dit, je vais te raconter la fable du poisson, du renard et du pêcheur. L'autre, il a voulu lui mettre une gifle. Déjà, il lui a dit, tu crois que je suis au jardin d'enfants avec toi ou quoi? Tu m'as pris pour le gagner la dîme ou quoi? Il dit, je suis l'ambassadeur de l'armée et toi, tu viens me raconter. Il dit, écoute jusqu'à la fin. C'est l'histoire d'un poisson qui est en train de circuler dans les océans. Il était en train de faire des petites nages, la brasse, la nage indienne et tout ça. Il se régalait dans l'eau. Il était content. Alors à ce moment-là, il a vu un pêcheur qui était en train avec son filet d'attraper des poissons. Il a eu un peu peur. Mais il s'est renforcé dans sa foi. Il s'est dit, si jamais Akadosh Baruch Hu a décidé que je dois vivre, je vivrai. Parce que tout dépend d'Hachem. La moindre souffle de n'importe qui dans le monde, il dépend d'Akadosh Baruch Hu. Et l'homme ne peut pas nous faire dans ce monde-là quelque chose si Hachem n'a pas décrété dans le ciel. Il a dit, il y avait un pêcheur là-bas, il y avait un renard qui était sur le bourg. Il lui a dit, le renard, le poisson, viens avec moi, je vais te mettre sous ma queue. Comme ça, au moins, tu ne vas pas être pris par les filets. Ah, lui a dit, c'est toi qu'on dit que t'es le plus malin de tous les animaux, c'est le plus hmar de tous les animaux, toi. Et il dit, toi, je sais que si jamais je reste dans l'eau, j'ai une chance de survivre et j'ai une chance de mourir. Mais si par contre, je sors de l'eau, je n'ai aucune chance de m'en sortir. Rabbi Akiva, il a dit ça, alors l'autre, il a rien compris à ce qui lui arrivait. Il dit, maintenant, je vais t'expliquer. C'est marqué que l'eau, c'est la Torah. Il dit, si jamais je continue à étudier la Torah, alors peut-être qu'Akadosh Baruch Hu va me donner la vie. Mais si jamais je me coupe des eaux vives, je me coupe de la source qui m'approvisionne et qui me fait vivre, c'est mon oxygène, j'ai aucune chance de m'en sortir. Alors plutôt faire en sorte de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et si jamais il y a une chance pour laquelle je vais être sauvé, je vais être sauvé. Rabbi Akiva, on l'a pris sur la place publique, Rabotai. On l'a peigné le front avec du fer. Rabbi Akiva, le tzaddik de la génération, qui a fait teshuva à 40 ans. Nous tous, on est capables. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus de 40 ans ici. Même le Rav, il est plus jeune, je le vois sur lui. Tous les gens ici, on a 40 ans, il a fait teshuva. Il est devenu la lumière d'Israël. 24 000 élèves. 24 000 élèves, les plus grands tzaddikim de toutes les générations. Il s'est élevé au niveau plus haut que Moshe Rabbeinu. À tel point que Moshe Rabbeinu, il a dit, c'est Rabbi Akiva qui doit recevoir la Torah. Rabbi Akiva, il arrive à la fin de sa vie. Il fait le schéma Israël sur la place publique en train de se faire peigner le front avec du fer. Schéma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Écoute Israël, l'éternel est notre Dieu, l'éternel est un. Moraï Berabota, il est en train de se faire peigner le front avec du fer. C'est difficile pour Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva est en train de sourire. Rabbi Akiva est en train de prononcer cette profession de foi d'Israël de tout son cœur. Les élèves lui disent, Rabbi, jusqu'à là tu dois prononcer cette profession de foi avec la joie et le sourire sur ton visage. Jusqu'à là, Kadosh Baruch Hu te demande de le servir dans la joie. Rabbi Akiva de répondre, toute ma vie, j'ai attendu ce moment. J'ai pu servir à Kadosh Baruch Hu, Bechol Levavecha. Ça veut dire quoi, Bechol Levavecha? Avec tout mon Yetzer HaTov et tout mon Yetzer HaRa. Avec le bon penchant et le mauvais penchant. Bechol Meodecha, Bechol Midotecha, Bechol Mida Umida, avec toutes mes midotes, avec mes bonnes qualités, avec mes mauvaises qualités, ou avec tous mes moyens financiers. Bechol Nafshecha, c'est quoi Bechol Nafshecha? Si on me demandait de rendre ma Neshama à Kadosh Baruch Hu, je devrais la rendre avec joie. C'est la première fois de ma vie que j'ai le sroud de faire cette mitzvah. Croyez-vous que je vais m'attrister? C'est le plus beau jour de ma vie. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Rabbi Akiva, Ashrecha Rabbi Akiva, Sheyatsa Nishmato Bechad. Heureux sois-tu Rabbi Akiva, dont la Neshama elle est sortie au moment où il a dit Echad. Echad, il a sanctifié le nom de Dieu, il a unifié le nom de Dieu. Les peuples des nations entières ont vu que le corps n'est rien, la Neshama est tout. Le corps n'est qu'un but pour sanctifier la Neshama. Rabbi Akiva, ils n'ont pas confisqué rien du tout. Il a sanctifié le nom jusqu'à la fin. Ribono Shalolam, Rabotai, cette histoire est trop belle. Cette histoire, c'est aussi l'histoire de notre Père. Notre Père, Alav Hashalom, il a sanctifié le nom d'Hachem, Bemesirut Nefesh. Je vous ai dit qu'il a été malade pendant 6 ans. Il a eu des grandes difficultés. C'était difficile pour lui, mais il se levait pour aller à la tfila. Il a fait tchouva, jour après jour, il s'est renforcé. Il a compris cette guerre contre le Yitzhara. Il se moquait, il se disait, ce Yitzhara, il nous attend. Il avait découvert. Il avait décidé de se battre contre lui. Et jour après jour, il s'est bonifié. Jour après jour, il s'est sanctifié. Jour après jour, Asher Kideshanu Bemizvota Vetivanu. Les mitzvot de Rabotai, elles nous sanctifient. Elles font rentrer de la Gdoucha en nous. Elles nous sanctifient pour faire en sorte de sortir l'obscurité des Averot qu'on a fait et pour faire rentrer la lumière de l'éternité d'Akadosh Baruch Hu. Il avait des douleurs innommables dans tous ses membres. Il allait à la synagogue le Shabbat pendant 4 allers-retours. Il devait monter 4 étages à pied. Il devait s'arrêter 4 ou 5 fois, rongé par les douleurs dans ses jambes. Sanctifiant le nom d'Akadosh Baruch Hu, disant à chacun qu'il croisait, tout va bien, Baruch Hashem. Si jamais ça m'arrive, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il a décidé. Akadosh Baruch Hu, c'est le Dieu de l'éternité. Akadosh Baruch Hu, c'est notre Dieu bienfaisant. Akadosh Baruch Hu, il a montré, Rabotai, à nous tous, nous a laissé l'enseignement le plus extraordinaire, que dans l'Avodat Hashem, dans le service divin, il n'y a pas de mort éternelle, il n'y a pas de circonstances atténuantes. Même l'homme qui est éprouvé dans sa chair, qui a des difficultés les plus difficiles, qui est dans une situation où il n'a pas d'espoir médical, il peut continuer à se renforcer, à faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, à être une lumière pour les siens. Il allait vers les gens, c'est pas lui qui attendait que les gens viennent lui dire comment tu vas. Il y a des gens qui n'ont pas su qu'il était malade alors qu'il est dans un stade terrible, jusqu'au jour où il est parti. Pourquoi? Parce qu'il était avenant envers chacun. Il venait embrasser chacun. Il venait partager la douleur de chacun. Il venait pas qu'on partage sa douleur. Il allait vers chacun, il leur disait « Comment tu vas? Comment ça se passe ?» Il a sanctifié le nom de Dieu. Il a montré aux gens, Rabotai, regardez comment c'est beau. C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il pleure. Pour celui qui peut étudier la Torah et qui ne l'étudie pas, dans la Gemara dans Chayiga, et pour celui qui ne peut pas étudier la Torah et qui l'étudie quand même. Celui qui ne peut pas étudier la Torah et qui l'étudie quand même, c'est comme eux. Que malgré les épreuves insurmontables qu'ils ont eues, mon père, il venait à la yeshiva avec moi. L'été, il venait à la yeshiva avec moi. Mon père, il n'a jamais aimé même être dans des hôtels parce que il aimait la propreté absolue. Il n'aimait pas être dans des endroits dans lesquels il y avait plusieurs gens qui circulaient. il a renié toutes ces choses. Il est venu, il étudiait à la yeshiva, il se levait le matin de bonne heure. Il venait à la tfila. Parfois, il ne dormait pas la nuit à cause des douleurs qu'il avait. Il se levait le matin. C'est quelque chose d'extraordinaire. Cette teshuva qu'il a élevé au stade des grands tzadikim de la génération, comme l'ont dit nos maîtres, à Bnei Brak. Et il a eu le sroud d'être enterré à Bnei Brak. Il a montré à nous tous, qui avons la chance d'avoir la vie, d'avoir la santé, on doit demander à Kadosh Baruch Hu qu'il nous donne la vie, qu'il nous fasse faire teshuva chez les mains. C'est quoi teshuva chez les mains? C'est pas faire teshuva sur des petites fautes de façon sporadique. C'est lutter contre la racine du mal, c'est le Yetzer Hara. Et c'est quoi le Yetzer Hara? C'est faire en sorte de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu comme il nous l'a dit. D'annuler notre volonté devant la volonté d'Hachem et de nous rapprocher de lui chaque jour. Celui qui fait ça, il sera méritant d'avoir l'éternité. Et on raconte justement, pour finir sur l'histoire de Rabbi Akiva, qui avait un très très gros. Il mangeait des hamburgers. Parce que vous, je sais que vous êtes des Américains et tout ça, ou des Londoniens, ils aiment bien manger les hamburgers et tout ça. J'ai vu le Burger King là-bas. J'espère qu'il y a des hamburgers cachers, comme ça vous m'amenez après avec vous. Là-bas, ils ont pris les hamburgers. Un, toute sa vie, il mangeait des hamburgers à Bretagne. C'était un mangeur de hamburgers, n'est-ce pas? Et il a eu un rêve. Qu'on est venu lui annoncer à Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva, il allait enterrer à côté de lui. Il lui dit, oh, que ça veut dire ça? Moi, je vais être enterré à côté de ce merboule qui fait que manger toute la journée, c'est le gros plat de soupe. Il dit, c'est pas normal, pourquoi moi je vais être à côté de celui-là? Comment ça se fait? Rabbi Akiva savait qu'Akadosh Baruch Hu, Enemuna Venavel, Tzadik Veyacharou, il n'y a pas d'injustice dans le monde. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour le bien. Kolman David Rahmanal et Tavavid. Rabbi Akiva disait, et ce que papa il disait aussi, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour le bien qu'il le fait. Même si nous on ne comprend pas, mais on sait qu'il le fait pour le bien. Il dit, il doit sûrement y avoir une raison. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ils ont commencé à chercher, qu'est-ce que celui-là il avait fait? Ils lui ont demandé, et toi, le gras double? C'était, il mangeait beaucoup. Il dit, qu'est-ce que tu fais à manger toute la journée? Tu fais la Torah, tu fais les mitzvot, tu fais des choses et tout ça. Il a dit, oui, j'essaie de faire ce que je peux, mais je suis très faible, j'arrive pas beaucoup à étudier, je connais pas très bien les choses et tout ça, j'ai pas un grand cerveau, mais j'essaie d'étudier, j'essaie de faire la mitzvah, la Torah, un peu, ce que je peux, je le fais. Mais il dit, tu connais toute la Torah comme Rabbi Akiva? Il a dit, non, c'est la Torah, je connais pas toute la Torah comme Rabbi Akiva. Il dit, mais pourquoi tu manges autant? Il a dit, j'avais un père, il était très très maigre. Et ils l'ont pris, ce père, un jour, dans les persécutions. Tous les ennemis du peuple d'Israël, Rabotai. Ils ont voulu nous exterminer, mais on est là aujourd'hui. On fait triompher la vie, on fait triompher la Torah. Chaque fois qu'on était déporté, chaque fois qu'on nous a emmenés dans l'Inquisition, dans la Shoah, dans les choses, la seule chose que les Bnei Israël ils voulaient prendre avec eux, c'était le Sefer Torah qui éclairait les sentiers sinueux de l'exil. C'est le message qu'on doit transmettre à nos enfants. C'est le message qu'on doit transmettre à nos familles. C'est pour la mémoire de tous ceux qui sont partis. Il lui a dit, son père, il a été mort, il est mort là-bas. Et malheureusement, son père, il était trop maigre, ils l'ont brûlé. Il a voulu réciter le Shema Israël. Malheureusement, il était tellement maigre qu'avant qu'il arrive à dire Echad, il a dit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem, il a tellement été consumé par les flammes que sa neshama est sortie. Il a dit, moi qui ai vu mon père dans cette situation, il dit, toute ma vie, j'ai œuvré dans ce monde pour faire en sorte que si un jour j'ai le mérite moi aussi de partir en sanctifiant le nom de Dieu, je serai tellement costaud que les flammes n'auront pas eu raison de moi. Que les flammes n'auront pas eu raison d'arriver jusqu'à ma dernière cendre, que je pourrais sanctifier le nom de Dieu, et à la manière de Rabbi Akiva dire Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Rabbi Akiva a fait ça dans la Torah. Et on peut aussi le faire et s'élever au niveau de Rabbi Akiva dans les affaires ou dans la vie. Si jamais on recherche Akadosh Baruch Hu d'une foi intègre, que toute notre vie elle est faite pour sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, comme l'a fait Rabbi Akiva, comme l'a fait notre père qui a essayé d'éclairer les gens et de les ramener. Vous imaginez pas tous les gens qui sont revenus à la Tchouva grâce à lui. Tous les gens parce qu'ils s'attachaient à lui. Ils le trouvaient tellement attachant, ils ont voulu faire les tfilines, ils ont voulu faire le Shabbat. Je connais des gens qui étaient tellement loin, ils sont revenus. C'est des choses qui sont extraordinaires. Où que tu sois dans le monde, que tu sois à Wall Street, à la City, que tu sois à Bnei Brak, je vous le souhaite parce que c'est la meilleure place, on est refait là-bas. Où que tu sois dans le monde, si tu te renforces, que tu te bats pour sanctifier le nom d'Hachem, pour que tu sois mamir le nom d'Hachem, que tu fasses rayonner la royauté d'Hachem dans le monde, alors tu seras méritant, Bezrat Hachem, à la fin de ta vie, de t'élever au stade des grands tzadikim, de ramener le Mashiach, Bimera, Biamenon, de retrouver les proches de ta famille qui te manquent, et de faire en sorte de pouvoir mériter l'éternité. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que vous yétisquez les Shanim Rabot, Neimot Vetovot, qu'Hachem vous gratifie d'une vie heureuse, que vous soyez scellés dans le livre de la vie. Je vous dis, j'étais très heureux de partager ces moments précieux avec vous. Je vous aime du fond du cœur. Je sais que ça a été un petit peu long, je m'en excuse du plus profond de moi-même. J'espère que je n'ai pas été trop pesant. Je vous ai dit ça parce que je vous aime du fond du cœur et que ça, si je voulais le partager avec vous. Et je remercie encore mon frère qu'Akadosh Baruch Hu fasse que ses paroles de lumière aussi intercèdent en sa faveur, qu'il puisse réussir dans sa vie. Si jamais il y a une jolie fille, elle pourra venir me rencontrer, c'est moi qui m'occupe du chidor. Je rigole. Ben, je rigole à moitié en fait. voilà, tout simplement vous dire que voilà, on va vous faire passer la feuille des mails. Le buffet va être ouvert. Vous pourrez encore faire des brachot, les ilou nishmat. Si jamais on peut faire quelque chose pour vous, moi je serai avec vous maintenant. Vous me connaissez. Moi, je suis un marboul. Je suis capable de tout pour vous. Vous me dites ce que vous voulez, je vous le fais. Si vous avez quelque chose, je dois aller au cimetière sur le Khazoni, sur le Rav Shach, je dois aller voir le Rav Kanievski, vous avez quelqu'un qui a une fatigue ou quoi que ce soit, moi je suis votre serviteur. Je suis l'homme de la situation. Si vous avez besoin que je prie, vous êtes les meilleurs pour prier. Mais si vous avez besoin que moi je me donne le compte et tout ça, je suis à vos côtés. Je vais vous laisser la feuille dans laquelle vous allez marquer des mails. S'il y en a qui veulent être zoché, de soutenir des gens qui sont dans des situations difficiles et qui tiennent le monde, qui sont dans des situations précaires, des étudiants de la Torah, soyez les bienvenus. C'est marqué que tout celui qui fait la tzedaka dans les jours de Tshuva, il a un grand mérite pour sa vie. Moi, je ne viens pas pour ramasser de l'argent ici, mais parce que je viens pour vous rendre méritant. Celui qui va avoir le mérite de soutenir ces gens-là, il aura une part dans l'étude de leur Torah, Bezrat Hashem, et ça le protégera. En tout cas, donc, je vous dis, si jamais on reste en contact, ne m'oubliez pas, moi je ne vous oublierai pas, et Bezrat Hashem, on se reverra bientôt. Hadak Bo. Ah, je voulais vous dire que ceux qui n'ont pas fait vite encore seront les bienvenus. Moi, j'ai...